le faisant part de tous leurs doutes sur l'accord du 28 avril. Et c'est écrit le réquisitoire mené par la représentante de CFDT qui démontre les articles un par un en prétendant qu'il y a des impossibilités juridiques, des impossibilités financières, des impossibilités ceci, des impossibilités de délai, etc. Un par un, tous les articles y passent. Et qui demande au passage à l'État de mettre sa contribution financière pour atteindre les 185 millions. Donc, il y a eu une réponse du gouvernement, dont on n'a qu'une partie, d'ailleurs, c'est toujours curieux. Et donc, un des enjeux, ce sera notamment les 80 millions d'écart entre les 105 millions et les 185 millions. Hypothèse 2, vendredi, on se retrouve avec une carence de la convention assurance chômage. Dans ces cas-là, c'est prévu, c'est le gouvernement qui reprend la main. Qui reprend la main en prenant un décret, parce que le gouvernement ne peut pas se permettre de n'avoir aucun versement d'allocation chômage au 1er juillet. Là, ce serait l'émeute. Dans ces cas-là, la situation s'est déjà produite, notamment en 1982, où il y avait une prorogation des droits existants. Là, l'hypothèse qui est envisagée, c'est, un, sur le régime général, des modifications de paramètres, peut-être des augmentations de cotisations patronales, vérifier que ce ne sera pas des baisses de droits, ça, il faut quand même s'en méfier, notamment pour les plus basses allocations, puisque c'était quand même ça qui était sur la table depuis quelques semaines, dans les seules vagues propositions qui figuraient, initiées par nos chers services de l'UNEDIC, qui ont eux-mêmes fourni le moyen de taper sur les chômeurs du régime activité réduite. Et puis, dans ces cas-là, si c'est le décret du gouvernement, ils n'ont pas le choix, il faudra qu'ils prennent l'accord du 28 avril, dont, au passage, on est en train de travailler à la transposition, parce que, évidemment, un accord politique, il faut qu'il y ait quelques points techniques qui se mettent en place. Voilà, donc, 14, 15, 16, on a appelé à la grève, des préavis ont été déposés partout pour tenir ces jours-là. On espère bien être très nombreux en Île-de-France comme partout ailleurs. On commence à avoir des retours de grève dans pas mal d'endroits, y compris des endroits où ça ne se voit pas forcément, mais des tournages en grève. Il y a un téléfilm de France 3 qui est en grève demain et qui vont essayer de reconduire. Il y a un tournage d'un long métrage dans le Nord qui devrait être en grève. Ils votent ce soir. Les camarades du IN d'Avignon qui sont en plein montage ont décidé samedi de voter la grève demain et sont en assemblée générale demain soir pour décider de la reconduction éventuelle, notamment pour le 16. Il y a différents endroits où la grève se vote et très clairement la question est de faire le jonction entre la bataille pour le retrait de la loi travail et le dossier assurance chômage, en y intercalant le dossier le moins médiatique, qui est la réécriture de l'article 11A. Voilà pour l'exposé. Au passage, un camarade en t-shirt jaune, je le dénonce pas, est arrivé. Il s'appelle Loïc Canitro, et il est sorti après 48 heures de garde à vue de son... lui-même décrit comme étant paradisiaque, les cachots de la République. Peut-être Loïc, tu diras un petit mot tout à l'heure, mais sachez que il est convoqué chez le juge le 5 août pour répondre de fait de violence en réunion, c'est bien ça, parce que tes testicules ont violemment heurté le genou du chef de la sécurité du MEDEF et que donc il a porté plainte. Voilà. Donc nous prendrons de ces nouvelles très bientôt. Jeudi, je m'enquérerai du genou de Monsieur Salmon de ta part, si tu veux bien. Et j'essaierai de récupérer le chapeau de Michel au passage. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Clairement, l'enjeu, c'est d'amplifier au maximum nos mobilisations demain, d'ici vendredi. Il y a quelques rendez-vous possibles auxquels on réfléchit et donc nous allons continuer à faire le boulot. Je suis persuadé que s'il y a moins de monde ce soir que lundi dernier, c'est que tout le monde travaille et se prépare pour la journée de demain et les suivantes. pour faire en sorte que nous soyons entendus. Alors, un petit complément aussi, vous aurez peut-être vu des échanges de tribunes dans Libération entre un groupe de metteurs en scène, d'artistes qui ont écrit une interpellation du gouvernement la semaine dernière et auxquelles Valls s'est empressé de répondre dans les mêmes colonnes. Ce qui est toujours intéressant, c'est ce qui est dit et ce qui est non dit, puisque justement, Valls s'empresse de ne pas répondre, alors s'empresse de répondre sur le fait que oui, l'État mettra un petit peu d'argent, en gros l'équivalent de 12 millions d'euros, pour faire la différence entre le 93 millions d'euros, ce qui est le chiffrage des experts de des économies faites par notre accord du 28 avril, pour aller jusqu'à 105. 12 millions d'euros, bon, évidemment, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas ça qui va nous faire mobiliser les foules. Par contre, les 80 millions d'euros, il n'y a pas de réponse de Valls, alors que c'était précisément la question de la tribune. Et donc, on peut imaginer, mais c'est à voir, que les 80 millions d'euros dont nous ne voulons pas, nous sommes bien les seuls à ne pas réclamer d'argent à l'État sur ce dossier-là. Hein. On en réclame pour les budgets des collectivités territoriales ou les budgets de la culture, pour l'audiovisuel public, pour plein de sujets, pour l'activité, pour créer des emplois. Ces 80 millions d'euros sont une carotte que le gouvernement agite. Je vous renvoie aux deux hypothèses du 16 juin, hypothèse 1, hypothèse 2. L'hypothèse dans laquelle le MEDEF, le patronat dans son ensemble et d'éventuels signataires qu'on peut compter forcément en ce moment dans la période du côté CFDT, CFTC, CGC. Le nouveau patron de la CGC a pris des positions un peu plus intéressantes sur la loi travail, mais visiblement c'est pas encore arrivé jusqu'à cette délégation assurance chômage. On peut penser que ces 80 millions d'euros sont une carotte que le gouvernement met en disant ben voilà, signez une convention d'assurance chômage, ça nous arrange, c'est vous qui assumerez les économies sur le dos des chômeurs, mais au passage vous aurez 80 millions d'euros pour calmer le jeu sur les intermittents. Voilà. Donc nous ne voulons pas, redisons-le, quelles que soient les solutions de ces 80 millions d'euros, parce que nous pensons que c'est le remettre un pied dans la caisse autonome dont le patronat et quelques autres voudraient le voir le jour depuis des années, et que d'autre part, les 80 millions d'euros, ce sera le montant minimum d'économie qu'on nous imposera dans un an, dans deux ans, à la prochaine négociation assurance chômage. Voilà où on en est, et je termine sur c'est ça pourquoi un an, parce que il est probable que s'il n'y est pas d'accord, ou même s'il y a un accord, il y ait une très courte durée, qu'on se retrouve dans une situation de sursis pour un an, pour pas très longtemps. Les négociations, les conventions d'assurance chômage qui duraient 3 ans, durent maintenant 2 ans, puis peut-être 1 an. Il y a même eu un projet en 2014 d'accord pour 6 mois. Donc la négociation permanente promise par la loi travail par ailleurs sur les conventions collectives, remise en cause toutes les 4 ans, c'est déjà mis en œuvre du côté de l'assurance chômage. Est-ce que Loïc, tu veux dire un petit mot rapidement? Pardon, tu n'avais pas fini ton.
Oui, bonsoir. Voilà, pour dire qu'effectivement, on était quand même tous très contents de se retrouver dans le MEDEF, à l'endroit où il fallait être, et de les faire chier un maximum. Donc, qui nous vienne un peu rancune, eh ben, lui, c'est plutôt bon signe. Donc, bravo à tous ceux qui y étaient, et bienvenue à tous ceux qui reviendront. Ensuite. Ensuite, je sais pas trop quoi dire, excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais ça va revenir. Il y a des choses à préparer, mais tu l'as dit, pour la manif de demain. Et d'ici à jeudi, on va essayer de se préparer quelques échéances pour rappeler qu'on a des raisons de se battre, qu'on a des raisons d'être confiant dans notre force collective, dans la légitimité de ce qu'on demande. Et donc, en cours de soirée, je pense qu'on va se donner de nouveaux rendez-vous. Et j'espère qu'il y en aura pour mercredi, j'espère qu'il y en aura pour jeudi. Et tant qu'on n'a pas gagné, il y en aura, si ce n'est tous les jours, au moins très très souvent. Et on va continuer comme ça. Pour ce qui s'est passé ensuite, je crois que je sais pas où l'info a un peu circulé. On était dans le MEDEF, on était à l'endroit où il fallait être pour essayer de choper Pierre Gattaz, Geoffroy Roux de Bézieux et quelques autres comme ça. Tous les pontes du MEDEF qui essaient de nous pourrir la vie depuis des années et face auxquels on résiste le plus souvent à distance. Ben là, on allait les chercher chez eux. On ira, je pense, aussi souvent que nécessaire là où ils sont et on va essayer de les toucher dans ce qui les gêne le plus, c'est-à-dire le pognon. Donc voilà, c'est dans les objectifs qu'on peut se donner dans les temps à venir. Alors ce jour-là, il devait y avoir une grande réunion du MEDEF avec quelques grands patrons de France sur le contrôle fiscal. Alors on suppose que ce n'était pas pour détourner le contrôle fiscal et pour savoir comment on allait à Panama, hein, ça ne doit pas être leur genre. On connaît le côté citoyen de ces gens-là. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait effectivement des grands ponts du MEDEF ce jour-là et c'est pour ça que c'était très bien qu'on arrive à cet endroit-là, à ce moment-là, et qu'on arrive jusque dans leurs locaux. Alors après, effectivement, les copains qui étaient là ont pris une vérification d'identité. Comme le directeur de la sécurité voulait que ça se transforme en fait divers plutôt qu'en revendication politique, bah, il a préféré mettre un coup et qu'on soit en procès, lui et moi maintenant. Lui m'accuse de l'avoir frappé. Tous ceux qui étaient là savent que c'est faux. Moi par contre, je sais qu'il m'a frappé. Et d'ailleurs, on a pas mal de témoins là-dessus. Bon, bah après, voilà, c'est l'aspect anecdotique et fait divers qui fait qu'on a un procès de plus sur le dos qui devrait se dérouler 5 août ou qui sera peut-être reporté. Et ben là, voilà, je compte sur le soutien de tout le monde, mais je pense que j'ai même pas besoin de le demander. On sait que ça fonctionne bien en ce moment, le soutien entre tous les camarades en lutte. Que dire de plus Non, mais c'est. Voilà, je pense qu'on va en rester là pour le moment. Et surtout, pour les prochaines actions, n'hésitez pas à diffuser l'info. Pour tout ce qu'on veut faire, pour tout ce qu'on doit faire, pour tout ce qu'on doit obtenir, on va avoir besoin d'être nombreux, on va avoir besoin de s'y mettre tous et de se serrer les coudes. Alors à très très vite.
Le jour où l'action a eu lieu au MEDEF, c'était le moment où on a reçu la fameuse lettre paritaire dont je parlais tout à l'heure, qui désigne l'accord en posant plein de questions, toutes plus fausses les unes que les autres sur le plan juridique. Mais voilà, donc ça c'est bien tombé. Dernière chose, puisque Loïc y a fait allusion, effectivement, c'est pas par hasard si tu as pris 2 jours de garde à vue avec une prolongation. Il y a d'autres camarades, on peut citer Antoine à Lille, qui lui a été chopé dans une manif et qui est incarcéré depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même, maintenant. Mais il y a plein d'autres militants ou militantes, que ce soit de la CGT ou de Nuit Debout ou de différents endroits qui sont... comment ? 10 mois avec sursis, d'accord. Ah oui, c'était mercredi, j'ai pas suivi, oui. Donc, il y a appel, donc, oui. Et absolument. Il y en a plein d'autres.
Bien, j'espère qu'on entend bien. Bien, alors on va entendre comme ça. On va entendre comme ça, mais cette acoustique vraiment dans cette salle, c'est terrible. Alors, oui, justement, par exemple, mais c'est un exemple, mais il ne faut pas... Bon, voilà, je veux dire, Dominique, il le sait, d'ailleurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Notre lutte est légitime, il n'y a pas de raison d'avoir peur, même face à la répression. Notre lutte est légitime et c'est jamais honteux d'avoir affaire à la répression lorsqu'on lutte. Alors oui, j'en profite pour dire que on était à l'AES hier, il y avait un gars qui s'appelle Grégory qui passait en procès pour avoir cadenassé la préfecture. Il a pris 2 mois avec sursis. Voilà, par exemple. Mais il y en a partout dans toute la France. À l'AES, c'est un petit bled hein, quand même. Il y en a partout dans toute la France des gens comme ça. On est nombreux à subir ça. Je pense qu'il va faire appel, évidemment. Moi, je voulais prendre la parole par rapport à cette action, donc, pour faire un petit bilan, car elle était positive, elle était super. Nous sommes tous, enfin, ceux qui ont participé à l'action, je pense qu'il y en a certains ici, nous avons été témoins qu'effectivement, la première chose que Loïc a dit avant que nous partions, qu'on reste calme, qu'il n'y a pas de violence, qu'on ne donne pas de coups, qu'on reste déterminé, c'est ce qu'il a fait. Alors, tout ça, on le sait, et d'ailleurs, on a besoin de témoignages. Si vous étiez témoin de tout ça, évidemment, n'hésitez pas à venir vous inscrire. J'ai un cahier ici, par exemple, ou alors envoyer un mail au comité de soutien qui va se former incessamment sous peu. Je voulais dire simplement une chose. Il y avait un petit hic, c'est sur l'évacuation. Sur l'évacuation, il était clair que nous devions nous faire sortir. Nous avons été quelques-uns à nous faire sortir, c'est-à-dire porter dans les escaliers, ce qui est toujours intéressant parce que c'est pénible pour les flics, ils attrapent des lumbagos, voilà, ils nous portent. Et là, on était quand même une centaine, et s'ils avaient pu porter les 100, ça aurait été intéressant. Il se fait qu'il y a eu, paraît-il, parce que moi j'étais le premier à me faire porter, paraît-il, derrière, il y a eu une sorte d'affolement à un moment donné, parce que c'est impressionnant évidemment de voir quelqu'un se faire porter, mais bon, on se fait porter, hein, c'est rien de plus, on se fait porter. Et il se fait que beaucoup se sont levés avec un petit peu la peur, et ça a évité, malheureusement, que ça dure plus longtemps, parce que 100 personnes à porter, ça dure longtemps. Et c'était intéressant, parce qu'on aurait retardé d'autant plus leur petit... Je ne sais pas s'il a eu lieu, leur petit... Il n'a pas eu lieu, bon, voilà. Enfin, bon, ça aurait duré plus longtemps, et ça aurait été intéressant. D'autre part, je rappelle qu'on n'a pas accepté de se faire prendre en photo... voilà, qu'il y a des choses. On donne simplement son identité, son adresse, point, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
Camarade cheminot, vas-y.
Bonjour, Vincent. Vous m'avez vu déjà la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Alors, déjà des nouvelles un petit peu de notre secteur. Donc, les cheminots, on est toujours en grève depuis le 1er juin au matin. On a fait de nombreuses journées avant. La situation, c'est assez similaire à la vôtre, c'est-à-dire qu'on nous a proposé quelques pseudo-avancées qui peuvent tenir, si on y croit, jusqu'à la prochaine présidentielle, si on n'y croit pas, pendant 3 mois. Donc, on essaye de nous acheter. Hein, c'est la stratégie du gouvernement. C'est-à-dire qu'on essaye d'éteindre par la réponse à des intérêts sectoriels, la mobilisation qui est en train de se créer. Donc c'est pour ça qu'on continue à se mobiliser pour le retrait de la loi El Khomri, parce que de toute façon, on est persuadé que c'est le symptôme de toute une politique qui fait que tant qu'elle ne sera pas retirée, et de toute façon, il n'y a aucun progrès social de possible. Donc c'est très important dans le sens où, pour combattre la régression, il faut déjà combattre ce qui la permet. Donc les cheminots, on est toujours en attente du retrait de la loi travail. On continuera à se mobiliser. Je ne sais pas si on m'entend mieux, là, si c'est mieux. Bref. Donc de notre côté, bon, ça tient bon, hein, ça s'essouffle. Hein. On est en train de mettre en place des caisses de grève aussi, parce qu'on commence à s'essouffler un petit peu, mais on est toujours déterminés. Je voulais aussi revenir sur... déjà remercier Loïc, parce qu'avec les collègues de l'AG de Montparnasse, dont je fais partie, on avait décidé de venir soutenir, au commissariat du 7e. Donc je pense que ça fera plaisir. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Il est parti. Bon, je lui dirais que ça nous ferait très plaisir qu'il vienne boire un coup au syndicat. Ça fera plaisir aux copains. On a participé avec les collègues cheminots aussi à l'occupation du marché de Rungis l'autre matin, si vous en avez entendu parler. Et alors, on a fait un truc fantastique. On était 1000. On s'est retrouvés à 3h du matin sur un parking... Et alors, on a vu 30 CRS. Franchement, alors on est resté calme, on n'a rien cassé, hein, tout s'est passé dans le calme, mais n'empêche qu'on a bloqué la nationale. On a vu 30 CRS. On en a tiré un peu la conclusion qu'en ce moment, les forces de police, ils n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité de tout. Ils peuvent, hein, je veux dire, nous, on n'a rien détruit, mais je veux dire, entre les fan zones, le foot, d'ailleurs, il faut voir les supporters, la violence de ces terroristes radicalisés, des casseurs en puissance, on ferait la moitié de ce qu'ils font dans une manif, on finit tous en prison pendant 10 ans. Faudrait qu'on mette des maillots de foot dans les manifs, peut-être, je sais pas. Donc on en a tiré la conclusion, si vous voulez, de cette action au marché de Rungis, concrètement, si on mène des trucs un peu comme ça, des actions à droite, à gauche, un peu partout, tous les jours, ils peuvent pas suivre. Là, c'est sûr, ils sont en train de tout faire pour essayer d'éteindre les mouvements et pour que la convergence ne se fasse pas. Donc c'est pour ça que nous, ça nous fera plaisir. En tout cas, moi, je proposerai aux gens dans mon syndicat de participer à des actions avec vous, les intermittents. J'ai vu que vous proposiez quelque chose au MEDEF. Bon, ça tombe bien, hein, la loi travail, on va pas se leurrer, c'est un peu la loi du MEDEF. Donc même si c'est la réunion par rapport à la convention assurance chômage, qui touche aussi, bon, bah, on a plein de gens autour de nous qui sont chômeurs, donc ça nous concerne aussi en tant que, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain. Je pense que je vais proposer aux petits syndiqués de mon syndicat de venir aussi au MEDEF avec vous en soutien. Et voilà. Donc, n'hésitez pas moi, j'essaierai de proposer via les gens que je connais ici, éventuellement des choses. Et puis, n'hésitez pas à nous proposer parce que nous, on est persuadés que l'intérêt qui vous habite, c'est-à-dire de pouvoir continuer à vivre dignement de votre force créatrice, d'artiste et autres, c'est un peu la même chose que nous. On doit travailler pour vivre. Donc, finalement, on se bat tous pour la même chose. Faisons la convergence, tout simplement. C'est pas compliqué. On s'appelle. On vient au MEDEF. Vous venez dans nos gares. Je sais pas, on fait des trucs. Voilà. Merci.
Oui, bonjour. Ce matin, j'étais comme tous les jours là auprès des gens qui font les poubelles, enfin qui brûlent toutes les poubelles de Paris. Et il y avait des télévisions là qui filmaient. J'ai écouté des interviews. Il y a un moment, j'ai pris une petite colère parce que un gars des FR3 disait mais enfin bon, tout se délite. De toute façon, toutes les grèves s'arrêtent, etc. Il y avait un prof qui était à côté de moi, qui était venu aussi les soutenir, et on discutait ensemble. C'est faux. C'est-à-dire, quand on dit que les raffineries s'arrêtent, c'est faux. Ils ont suspendu très peu, ils reprendront. Ce matin, sur France Info, El Khomri disait elle-même, Monsieur Martinez ne veut pas me rencontrer. Alors qu'il a dit, moi je suis prêt même le dimanche. Les médias sont, comme vous le savez évidemment, mais actuellement effrayants et essayent de démobiliser. Ce qui veut dire que quelque part, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui, contrairement à ce qu'ils disent, est montant et il faut essayer de soutenir par tous les copains.
C'est mon tour. Bonsoir, Farida. Je voulais, moi, compléter, plutôt vous partager une réflexion avec vous sur, par exemple, la communication qui a été faite autour de la violence au MEDEF, pour dire le fait que c'est ça qu'on a communiqué, en l'occurrence l'altercation avec Loïc. Je veux vous dire que, justement, précisément, ça se passe très calmement. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont dans cette salle, qui sont jamais venus en action... Sachez qu'en réalité, enfin, c'était très bon enfant. C'est-à-dire qu'on rentre de façon déterminée, mais en fait, on arrive avec des pancartes, avec des mots où c'est écrit déficit toi-même, encore heureux, que sais-je. Bref, et l'ambiance, ça, c'est simplement pour vous dire l'autre côté qu'on ne raconte pas. Donc, on venait pour effectivement nous entretenir de ces questions de contrôles fiscaux où ils sont surcontrôlés, c'est affolant. Et donc, et leur exprimer évidemment toutes les choses que vous connaissez. Il y avait parmi cette centaine de personnes, des gens pour lesquels c'était la première fois, des femmes d'une cinquantaine d'années qui allaient après chercher leur gamin à l'école. Enfin, c'est simplement pour vous dire que ça s'est passé de façon très... Il n'y a pas toute cette idée, quoi. Moi, la réflexion que je veux avoir, c'est d'une certaine manière, ça fait que les gens ne viennent plus comme dans les manifestations avec eux. Voilà, ça fait qu'à un moment donné, on se pose la question en disant on va encore se prendre des gaz, on va encore se prendre ci, on va encore se prendre ça. Enfin, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, je sais pas, violent que je suppose qu'un certain nombre de personnes le savent, mais pour ceux qui hésitent, qui ne savent pas, sachez que c'est. Pas très compliqué, voilà, et qui a pas besoin, voilà, moi j'ai personnellement des problèmes de santé et j'y viens et voilà quoi. Donc il n'y a jamais eu aucun problème, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Bonsoir à tous. Sudpost 92, Francis Lapose Danière. Nous sommes ici présentement, déjà, on a dû entendre tous nos camarades qui ont parlé depuis un moment. C'est une fusion. Nous sommes ensemble. C'est main dans la main. Pas d'unité, on n'y arrivera pas. Donc, déjà, nous savons tous que nous avons une manifestation intersyndicale demain. Donc, nous vous convions de pouvoir être dans notre cortège. Parmi nous, il y aura des cheminots, il y aura des étudiants, l'éducation nationale, le travail social. Parce que quoi qu'on dise, la loi El Khomri, nous le savons tous, déjà d'un, elle est bredouille. Et en plus, c'est une boucherie. Donc, actuellement, nous avons aussi besoin, après cette manifestation, nous avons un autre souci, nous, les postiers du 92. Nous avons une action que nous menons demain matin et nous avons besoin de vous. Et pour ceux qui seront intéressés, j'ai mon camarade Xavier qui est assis pas loin. Ils pourront se rapprocher de lui, tout simplement parce que c'est une action qui sera retentissante. Parce qu'elle va parler. Et on sait tous aujourd'hui que le seul moyen de toucher ce gouvernement, c'est sur le plan économique. On n'a que ces moyens quand j'entends encore un camarade dire cette télévision qui nous vend de mauvaises informations. Mais à un moment donné, pour avoir la meilleure fibre, c'est quand nous sommes assis comme ça. Parce qu'on a une vision différente. Et j'ai tendance souvent à dire, si on a la chance d'être dans ce pays aujourd'hui, c'est grâce au combat de ceux qui l'ont mené il y a plus de 100 ans. Donc n'ignorons pas, parce qu'on veut souvent nous prendre ces exemples. Oui, nous parler les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette communauté européenne. Prendre l'exemple sur l'Allemagne, l'Angleterre. Mais nous, c'est la France. Bleu, blanc, rouge. Et c'est comme ça. Il ne faudrait pas que pour quelques personnes qui veulent décider, une quarantaine de personnes qui outrepassent en plus les députés, le Sénat, on nous parle du 49-3. Est-ce qu'il est adapté à notre situation de 2016 quand il a été pris il y a plus de 30-40 ans pour être mis dans les lois de notre gouvernement, de notre patrie? Je ne pense pas. Donc, pour revenir justement à cette manifestation, pour que ce ne soit pas, on ne s'embourbe pas, en dehors de l'action que nous avons demain matin, pour la manif, pour tous ceux qui voudront se joindre au cortège, les cheminots, postiers, étudiants, du travail social, nous donnons une adresse, ça sera 11 boulevard Port-Royal, le cinéma Escurial, Paris 5e. En plus, je profite parce que nous les postiers, nous, dans le 92, nous sommes en grève reconductible depuis le 10 mai. Et nous savons tous que, quand on mène ces combats-là, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais grâce à vous, grâce à d'autres comités, d'autres soutiens, nous tiendrons. Parce qu'en dehors de notre bataille sectorielle, nous sommes conscients que la loi El Khomri nous concerne directement. Parce qu'il suffit de voir aujourd'hui à la poste, il y a plusieurs statuts. Des fonctionnaires, des salariés, des intérimaires, des CDD, dont des contrats précaires. On ne peut pas dire que c'est un secteur qui reste, qui est exilé de cette situation. En plus, c'est vrai, mon camarade l'a rappelé tout à l'heure, mais je l'avais prévu. Il y a quelque temps, on nous dit, c'est nous qui cassons, c'est nous qui bloquons l'économie, c'est nous qui faisons ceci. Mais en 2 jours, je me demande bien si nous sommes des truands, si nous sommes des casseurs, ou si ce football-là, il est mieux loti, parce que quand on voit ce qu'on a pu apercevoir dans nos écrans depuis quelques jours, ça laisse à craindre, ça laisse à désirer. Mais dès que nous, on marche, on nous interdit de prendre la lignée droite qui était convenue, et on nous dit que c'est nous, les casseurs. Et pourtant, ce gouvernement nous braque. Il nous pille, voilà les mots, comme il faut le dire.
Combien de patrons vont avec plus de 200, 300 millions? Et pendant que l'économie est à peine en train d'être relancée, on nous sort encore une telle loi. C'est vrai?
J'ai une voix qui porte. Je vous remercie.
Donc, je tiens quand même à nous dire ici qu'il faudrait qu'on reste unis, qu'on garde nos convictions, qu'on ne relâche pas le combat, parce que quoi qu'on nous dise, quoi que les médias, avec les informations et encore ce que M. Berger a pu dire hier, ne perdons pas de vue que cette loi-là, pour qu'on lui dise « dégage », comme on fait depuis un moment dans nos slogans, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, le million, la centaine, et ainsi de suite. Nous gagnerons tous ensemble. Je vous remercie.
Un petit peu sur ce qu'a dit la camarade, je crois que c'est Farida. Voilà. Là, voilà. Oui, moi, personnellement, je ne suis pas allée en action. Et en fait, je suis un peu à la ramasse au niveau des informations. Savoir comment me tenir informée pour les rendez-vous. Bon, j'imagine bien que vous n'allez pas mettre sur un site, on va aller occuper le MEDEF. Mais comment faire, quoi? Juste une question. Comment être informé?
Pour les départs en action, de toute façon, il y a des rendez-vous qui sont connus. L'objectif ne peut pas être annoncé, mais les départs en action, c'est comme à 4h30 demain matin. Voilà, il faut être au point de rendez-vous et pour avoir les infos, c'est sur les... Pour avoir l'info, il faut que... On ramasse les mails à la fin des AG et on envoie les infos. Ils sont affichés quand on peut sur les sites. CIP ou CIT Spectacle et donc là on a des points de rendez-vous, mais laisse-nous ton mail et on fera comme d'habitude, on fera tourner des listes d'informations et on peut recevoir des questions, des informations à ce sujet-là. Voilà. Je ne sais pas dans quel ordre, mais il y avait une prise de parole ici.
Farida.
Voilà, je veux bien refaire un point là-dessus. Alors, toutes les personnes qui sont ici, qui veulent bien nous donner leurs coordonnées à la fois mail et portable, parce qu'il y a certaines informations, effectivement, qu'on ne diffuse pas nécessairement, mais vous pouvez quand même, sur le site de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, assez régulièrement avoir des rendez-vous d'action. Il y a aussi parfois des mailings ou des, comment, je sais pas comment on dit, par forme de SMS quand on les envoie en nombre. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on ait vos coordonnées et on signale. Mais effectivement, c'est le matin ou à l'heure du rendez-vous qu'on se rend. On ne sait pas nécessairement où on va. Justement, il y a un truc que je voulais dire parce que on n'en fait plus des AG où on discute ou on n'en fait plus. Je ne vais pas dire comme ça. Par exemple, j'avais une question sur quand Michel, il dit... C'est pour continuer la conversation. Quand Michel, il dit on aurait pu se laisser porter plutôt que de sortir à l'action MEDEF. Bon, voilà, c'est des choses dont on peut parler avant de partir, à la forme qu'on va... Comment on reste ensemble ou pas, des choses comme ça. Ça se discute sur le moment. Voilà.
Et au passage, les mails et téléphones, vous ne risquerez pas de recevoir des informations publicitaires dessus. Hein, on ne les transmet à personne que CIP et CGT. Hein, voilà. On ne revend pas les fichiers. C'est dans quel ordre? C'est toi, vas-y Philippe.
Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur les accords du 28 avril qui ont été signés par les professionnels, tous les professionnels du secteur du spectacle qui étaient d'accord pour établir une liste une liste de propositions qui permettraient aux annexes 8 et 10 de perdurer dans un système interprofessionnel tel que tout le monde le souhaite, à savoir une assurance chômage pour tous. Là, c'est... Et aujourd'hui, en fait, quand je pose la question, est-ce que tous ces employeurs étaient d'accord pour qu'on ne vienne pas les embêter, parce que comme ils étaient tous d'accord, eh bien, après, on n'avait aucune raison de les embêter, puisqu'ils sont d'accord avec cette proposition qu'ils ont faite. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'aujourd'hui, ils ne se réunissent pas pour écrire quelque chose ensemble sur cette non-acceptation et cette mise à la poubelle de cette liste qui a été écrite. Donc on se retrouve à l'initiative de la CGT Spectacle ou d'autres de coordination des intermittents ou des âgés qui sont plus conséquentes et ou ce soir, mais ils ne sont plus là. Ils ne se manifestent plus aucun communiqué. Peut-être c'est faux ce que je dis, en tout cas ça ne m'arrive pas aux oreilles, ça ne m'arrive pas dans les yeux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, dès la journée du 16 juin, qui est a priori la dernière journée de négociation avant avant qu'ils rendent la copie, quelle qu'elle soit, on a tous les doutes sur une copie qui soit rendue, on ne sait pas ce que ce sera, ça peut être tout et n'importe quoi, on se fait balader un petit peu, là, comme ça, il y a le journal télévisé, et puis il y a la lutte à l'AG de la Bourse et dans des salles de spectacle où on vient aux infos, comme on regarde le journal télévisé. Et je me demande si le 16 juin, il n'y aurait pas moyen, en tout cas pour une organisation comme la CGT Spectacle qui est en lien avec ces fédérations d'employeurs, parce qu'ici il y a beaucoup d'employés, très peu d'employeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les mettre face à cette réalité et d'envisager des perspectives de leur part? En 2014, il y a un directeur de CDN qui a mis son théâtre en grève, un seul. C'est au théâtre de Gennevilliers, on ne va pas le nommer parce qu'il n'est pas mieux que les autres, mais en tout cas, il l'avait fait. Il avait décidé que son théâtre serait fermé. Et donc, la grève, il y avait des spectacles, il y avait une programmation, et il avait décidé ça. Aujourd'hui, pas l'once, rien nous indique que les employeurs qui étaient tous d'accord pour dire que cette chose était bonne, en tout cas que les 30 millions, on les trouverait... Vraiment, il y avait moyen de faire quelque chose. Il n'y a rien. Je n'ai pas cette info. Je n'ai pas cette info. Donc, je me demande si nous, employés de nos employeurs, nous ne devrions pas exiger qu'ils se remettent autour de la table et qu'ils nous proposent des perspectives de lutte liées à la proposition, parce qu'on s'est tous réjouis. Il y avait un accord historique qui avait été fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose autour de laquelle on pourrait se réjouir, autour de perspectives qui seraient maintenant d'autres perspectives proposées par les employeurs suite à celles qui ont été proposées et qui ont été black-boulées, quoi, qui sont pour l'instant inefficaces au possible? Est-ce que ça ne serait pas une chose à envisager? Donc je pose la question ce soir à l'AG et si quelqu'un peut éclairer cette situation et de savoir comment on peut amener nos employeurs à se repositionner comme ils l'ont fait avec ces accords du 28 avril, ces accords historiques qui n'ont pas servi à grand chose pour l'instant. Merci.
Donc, une prise de parole là, juste à côté. Ouais. Juste sur ce point-là, je suis représentant d'un syndicat, d'une fédération de syndicats de salariés. La bataille que nous avons menée pour aboutir à l'accord du 28 avril, c'était une bataille qui n'a pas été simple avec nos employeurs. Évidemment, on a signé un accord. C'est parce qu'on signe un accord avec nos employeurs qu'on est devenus super copains. Alors, ils le défendent, oui, ils le défendent, ils ont fait leur communiqué. C'est sûr qu'ils ne vont pas venir le défendre dans les AG ou autres. Demain, on fait grève aussi sur nos lieux de travail. Les tournages qui sont arrêtés, ça emmerde les producteurs des films qui le font. Ça emmerde le Festival d'Avignon si le montage prend du retard et l'AG qui a eu lieu, dont on a eu les échos samedi, c'est aussi des revendications par rapport aux conditions de travail sur Avignon qui ont été évoquées. Des camarades du SAMTAC qui ont eu le retour et l'échange avec les copains d'Avignon pourront le dire. C'est aussi le manque de personnel sur Avignon, les conditions de travail et un risque de dénonciation d'un accord qui existe depuis quelques années sur le volume d'emploi à Avignon qui est en danger. Donc, comme sur la loi travail, il y a des raisons de se mobiliser sur des sujets généraux qui concernent tout le monde et des sujets particuliers qui méritent cette attention. Bon, et puis dans nos employeurs, il y en a quelques-uns, il faut faire des nuances. Parce qu'on a signé un accord avec la FESAC, mais au sein de la FESAC, il y a par exemple un syndicat qui s'appelle le SIMPAS, le syndicat des prestataires du spectacle vivant et de l'événementiel, dirigé par un certain Fromentin, qui a fait deux communiqués pour dire que l'accord du 28 avril était un scandale et qui est complètement sur les positions du MEDEF et d'ailleurs plutôt de la CGPME avec qui il a pris contact pour dire qu'il aurait fallu mettre 670 heures pour les techniciens et virer plein de monde, comme ça on aurait réglé le problème de déficit, etc., etc., soi-disant déficit, bien sûr, et que donc, il fallait en gros avoir un volant de permis temps encore plus perméable dans un secteur où on peut se poser la question par ailleurs du recours à la précarité pour des activités qui sont souvent des activités pérennes et permanentes. Donc, y compris, on a eu une taupe dans leur réunion. La position du SIMPAS, qui se met délibérément et publiquement à deux reprises dans les communiqués, se met en désaccord avec la position de la FESAC. Il se positionne pour plus tard en bon élève dans un secteur où il pourrait très bien y avoir beaucoup plus de contrôle sur les abus du recours au manque de CDI, pour dire les choses comme ça, dans ce secteur. Donc, et où on se bat pour pas mal de requalifications, et où par ailleurs, au passage, c'est pas qu'une anecdote, en termes de parité, les rapports de branche précisent qu'il y a une femme pour 10 hommes. Donc il y a des progrès à faire dans ce secteur-là. Donc tout ça pour dire que la grève elle a lieu demain aussi sur nos lieux de travail. Nos employeurs en pâtissent parce que c'est ça l'objet de la grève. Ce sera peut-être le cas au fur et à mesure des prolongations. On peut rappeler à la FESAC leurs obligations et leur intérêt à ce que l'accord entre en vigueur, ça c'est certain, mais en attendant, il y a deux cibles, les signataires de la lettre du 24 mars et en particulier le patronat qui font tout ce qu'ils peuvent pour que l'accord n'entre pas en vigueur, et puis le gouvernement qui pourrait laisser faire une baisse des droits des chômeurs au régime général et qui n'a pas encore mis en œuvre l'accord du 28 avril par ailleurs.
Je vais revenir un peu en arrière sur les questions pratiques. Pour être ajouté aux listes mails et textos dont Farida parlait, vous pouvez venir me voir.
Est-ce que tu peux te lever ?
Voilà.
Alors, il y avait un tour de parole ici.
Oui, bonjour. C'était pour répondre au monsieur... Là, c'est pour les employeurs. Il me semble que mardi soir, je ne sais plus, on était devant le commissariat du 7e, il y avait un papier donc signé par tous les directeurs des CDN, presque tous les directeurs des CDN et des réalisateurs qui pour soutenir l'accord du 28 avril. Voilà, juste pour dire ça.
Mieux vaut tard que jamais.
Alors, je retraverse la salle, mais si vous avez les interventions, faites-moi signe pour que je puisse savoir. Tiens. Oui, déjà.
Bon, je sais bien que je voudrais quand même rappeler quand même les positions que certains ici veulent un petit peu mettre aussi au devant de cette lutte. C'est celle que la CIPIDF défend depuis assez longtemps, c'est-à-dire... de réfléchir à une forme de service public qui serait rattaché à la personne et la question de cela où on réfléchit, c'est-à-dire sur le nouveau modèle, c'est-à-dire faire remonter cette intermittence, l'intermittence du spectacle à tous les métiers discontinus. Parce que c'est vrai que la lutte dans laquelle on se trouve aujourd'hui par rapport à la loi travail est très importante, mais qu'elle soit là ou pas, il y aura encore beaucoup de gens qui se retrouveront dans la merde, voilà, avec ou sans la loi travail. Donc la question que je soulève là aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi poser cette question de comment retrouver une sorte de réunification des luttes sur des choses qui soient moins segmentées. Cette société dans laquelle on est aujourd'hui, elle était excessivement segmentée. On voit bien, on a beaucoup de mal à mobiliser parce que il y a justement les prestataires, beaucoup de gens qui sont ici et là et qui, d'une certaine façon, se font déjà la guerre. Et donc, il y a vraiment des questions que nos organisations, les organisations dans lesquelles j'ai été, mais je ne suis plus, parce que justement cette parole n'arrive pas à circuler suffisamment. Et bien que je sois encore sympathique, je trouve aussi quand même certaines formes de lutte sympathiques, je suis encore sympathisant, mais il y a une forme de lutte et une forme de parole et une forme d'appréhension justement pour réunifier aujourd'hui nos combats qui soit un peu moins sur la question du salaire, mais un peu plus sur cette question justement des droits par rapport à ceux qui n'accèdent pas à l'emploi. Parce qu'on sait très bien que l'emploi, c'est une forme de contrôle dans lesquelles, avec ce qui va arriver là, dans les années qui viennent, ce qu'on appelle les données géants, les big data, ce qu'on appelle les énormes données, c'est aussi des formes de contrôle qui sont en train de se mettre en place. Et c'est ça qui se met en place au niveau européen. C'est des formes de contrôle qui vont contrôler toutes les populations à travers justement des systèmes d'emploi, des systèmes de pointage et autres. Et donc, il y a nécessairement aujourd'hui obligation à refabriquer du commun en dehors de ces pièges dans lesquels on est tous enfermés. Donc, je suis bien sûr demain sur la lutte, bien sûr j'irai au casse-pipe comme ça m'arrive malheureusement trop souvent, mais je nous rappelle qu'il y a vraiment urgence à ce qu'une réflexion parmi nous et qui soit moins sectorielle, moins catégorielle, soit portée à l'intérieur de nos mouvements et moins sectaire comme on l'est. Voilà, c'est le moment de parler de ça et c'est le moment de parler de ça entre nous aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Trois tours de parole. Maxime, tout d'abord. Tiens.
Moi, c'est plutôt des interrogations. C'est assez intéressant d'être en Assemblée générale et aussi peut-être profiter du fait qu'on ne soit pas très nombreux pour essayer aussi d'acter des choses. C'est important. Ça fait depuis un bout de temps qu'on fait des Assemblées générales et on ressort avec des rendez-vous d'action, mais aussi on n'acte pas une parole ensemble et quelque chose qui nous permet aussi de rassembler. On peut se cacher derrière notre petit doigt et se dire effectivement peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de préparer la grève des jours suivants et ne viennent pas aujourd'hui. Néanmoins, c'est quand même un sérieux problème d'être aussi peu nombreux aujourd'hui. Et c'est vraiment, il faut vraiment se poser cette question et de savoir où est-ce qu'on pêche. C'est-à-dire, comment ça se fait que lorsqu'on va dans des théâtres, on arrive à avoir des jauges de 400, 500, 600 personnes, 1200 dans les premières, et que dès qu'on arrive à la Bourse du Travail, on se retrouve à une grosse centaine. 200 ? Allez, 200. Non, mais il faut vraiment se poser cette question-là. C'est à croire que les intermittents, on leur dirait qu'il faudrait payer leur place pour aller à une AG, il y aura encore plus de monde. Non, il faut vraiment savoir. Donc il faut qu'on trouve aussi des moyens de diffuser ces informations.
Et encore, tu leur as pas dit de se syndiquer encore.
Et encore, c'est dire. Non, mais il faut vraiment aller chercher les gens. Et une grève générale, ça se décrète pas, hein, ça se fabrique, ça se fait. Il faut, si on doit acter quelque chose, par exemple, c'est dès maintenant organiser des groupes pour aller voir les sorties de spectacles. Je me souviens d'une action qu'on avait faite, c'était d'aller placarder sur tous les théâtres la veille d'une grève, annuler, contacter le MEDEF. C'est ce genre de choses-là qu'il faut faire parce que, en fait, il faut aller chercher les spectateurs, il faut très rapidement les mettre de notre côté. Pour une raison toute bête, c'est qu'on a un outil de com' en face qui est un rouleau compresseur implacable où on est en train de nous dire « on va vous foutre de l'argent, on vous écoute, vous êtes sauvés, pourquoi vous allez vouloir annuler les festivals ?» Et ça, c'est implacable et c'est dès maintenant qu'il faut absolument qu'on communique là-dessus et qu'on dise « nous sommes en grève et nous risquons d'annuler les festivals parce que nous ne voulons pas être sauvés ». Et ces choses-là, il faut continuer à les dire. Donc peut-être qu'il faut se réunir, refaire des commissions, refaire ces choses-là pour aller voir les gens et qu'on se retrouve plus nombreux à chaque AG, qu'on se retrouve plus nombreux aussi à chaque action, parce que c'était incroyable de voir qu'à la dernière AG, lorsqu'on a fait un décompte à main levée, il y a 30 personnes qui étaient prêtes à partir en action. Le lendemain, à la fin de l'AG, après tous ces discours, on était plus d'une centaine en action. C'est donc qu'on arrive à convaincre. Maintenant, il faut réussir à faire venir ces gens-là pour qu'on soit plus nombreux.
Oui, alors moi, je rebondissais sur ce qu'avaient dit tout à l'heure les camarades, puisque il y a des personnalités, des patrons, des directeurs de CDN qui sont en train de manifester leur soutien en fait à cet accord. Pourquoi on va pas vers eux pour un peu leur forcer la main, un peu leur tendre la main pour qu'ils posent des actions en fait? Parce que je pense que si on le fait pas, il va rien se passer. Est-ce qu'on peut pas justement aller vers cette liste et essayer de demander à ce qu'il y ait des actions de poser par rapport à leur soutien? C'est la question que je me pose. Puisqu'ils sont pour l'accord, puisqu'apparemment ils sont pour l'accord, pourquoi est-ce qu'on va pas vers eux, puisque c'est quand même eux qui ont le levier le plus important?
Alors, la parole.
Oui, pour rejoindre cette idée, effectivement, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a quelques années, moi je m'en fous des personnalités publiques et tout, mais n'empêche qu'avec leur notoriété, etc., elles apportaient une force dans le mouvement, elles mettaient l'opinion publique de notre côté, et tout d'un coup, les politiques disaient « Ah merde, Catherine Deneuve la ramène, on va peut-être, j'en sais rien, mais bon ». Et là, je suis étonnée, cette année, il y a personne, même Toreton, mais pas suffisamment publiquement, en tout cas. Moi, je les vois sur Facebook passer, Jacques Gamblin et tout, mais je ne les entends pas. Karine Viard a fait une vidéo qui est passée sur Facebook, mais avant, il y avait quand même un engouement et tout ça. Donc voilà, je voulais juste dire ça.
Excuse-moi, camarade, il y a des tours de parole. Donc, excuse-moi, camarade, il y a des tours de parole, donc on va les respecter. Je te donnerai la parole tout à l'heure. Merci.
On t'inscrit, bien sûr, mais il y a une copine qui veut parler, on va la laisser parler.
Bonsoir, je suis arrivée en cours de route. Je voulais savoir s'il y avait un rendez-vous spécifique. Pardon, je voulais savoir s'il y avait un rendez-vous spécifique demain pour la manif CGT spectacle et éventuellement.
Ouais, on a proposé qu'on ait un rendez-vous avec le camion concert à l'angle Vincent Auriol, place des Alpes, à 14h. Propose à 13h, pardon. 13h, on a déjà mis 13h, bon, je vais même oublier les rendez-vous qu'on lance, mais comme on est dans le cortège Île-de-France et qu'il y aura plein de monde de différentes régions, on risque de démarrer avec un petit peu de délai. Voilà, on a proposé ça en commun à tous ceux qui le souhaitent pour faire un cortège. Ça se situe entre le cortège sud et le cortège CGT de l'Île-de-France, donc c'est l'occasion de se rendre visible dans ce cortège. Voilà, c'est...
Alors,
on va le redonner. À peu près, hein, parce qu'on ne sait pas quel nombre on sera, et donc le rendez-vous est cet endroit-là, mais savoir si. Voilà. Mais il y a le camion plateau musique, ça se voit de loin normalement avec des banderoles dessus.
Ouais. Donc moi je voulais revenir sur ce qu'avait dit Maxime, c'est ça. C'est que plus fort par rapport à la première mobilisation. Pour moi, il y a une première mobilisation avant le 28 avril, et il y a une remobilisation ensuite. Et moi, je le sens vraiment, je suis administratrice de production, et je sens vraiment autour de moi, il y a deux pans. En fait, il y a une incompréhension sur laquelle il faut être relativement expert pour communiquer, parce que la plupart des gens ne savaient pas forcément qu'on était sur une négociation préalable, qui devait après revenir au MEDEF et repasser, je dirais, en plénière. Enfin, je ne suis pas experte du sujet. Et en fait, c'est hyper difficile de Parce qu'il y a eu une espèce de sensation de victoire le 28 avril. Et c'est là, les gens, ils m'ont dit, quand j'ai dit que j'allais à l'AG, on m'a dit « Ah bon, mais alors on en est où ?» J'ai, ah, ok. On en est que le MEDEF veut pas ratifier. Oui, mais Valls, il a dit qu'il allait le faire. Ouais, mais en fait, c'est pas si simple. Et en fait, il y a un défaut. Moi, par exemple, j'ai pas les éléments pour communiquer. Enfin, si, je les ai, mais il manque un canal d'information sur la rupture qu'il y a eu sur la remontée en plénière, parce que pour tout le monde, le fait que tous les syndicats de salariés aient signé l'accord du 28 avril devait faire qu'il soit, en gros, ratifié instantanément. Et après, je pense que par rapport à ce qu'on se demande, si on mobilise les directeurs de théâtre, les personnalités, etc., comme on est une globalisation de mouvement vis-à-vis du public, à mon avis, il n'y a pas besoin de communiquer. Je veux dire, sur les luttes, là, ils sont au point, en désinformation en tout cas.
Effectivement, on avait pointé le danger. Je réponds à ta question parce que c'est une info c'est un danger qu'on avait immédiatement identifié dès le 28 avril. La négociation, elle se passe dans un contexte complètement nouveau. Donc, depuis la loi de 2015, nous avons une négociation. C'est un processus la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, où nous avons la possibilité de faire une négociation spécifique en parallèle à la négociation du régime général. Il se trouve que, particulièrement cette année, la négociation du régime général se passe particulièrement mal, même si en 2014, c'était assez groquignolé en termes de baisse des droits des chômeurs. Mais là, on assiste à une non-négociation au niveau du régime général qui est phénoménale et qui devait se terminer le 12 mai, qui a été repoussé encore le 30 mai, et puis qui a encore connu une dernière date le 16 juin. En espérant que ce soit vraiment la dernière date le 16 juin. On va voir ce qui va se passer, mais bon, a priori, en tout cas, là, on s'approche tellement du 1er juillet que dans tous les cas, il se passera quelque chose pour le 1er juillet, puisqu'il y aura au moins le moyen d'avoir un nouveau texte ou une prorogation du texte, mais en tout cas, au 1er juillet, pour l'instant, il n'y a pas d'assurance chômage pour personne. Hein, donc c'est la première question du processus. Donc le processus est complètement nouveau, et effectivement, on a dit le 28 avril, ce qui n'a pas été simple quand on a obtenu cet accord pour lequel nous aussi on a fait quelques concessions, en l'occurrence de baisser les plafonds des plus hautes allocations et puis quelques autres trucs comme le différé congé payé. Nous l'avons amplement expliqué, hein, il y a des décryptages sur le site de la CGT Spectacle, par exemple, on a fait un décryptage de chacun des articles pour que chacun puisse comprendre quelle serait la nouvelle réglementation qui serait issue de cet accord. On avait tout de suite dit, tous, que le danger serait forcément que certains croient que la partie était gagnée, alors qu'on n'avait gagné qu'une étape. On a gagné une étape avec cet accord du 28 avril. Comme par hasard, même le processus qui est décrit et qui est imparfait dans la loi, par exemple, la loi n'a pas cadré le cadrage, la loi a prévu que si l'accord est validé automatiquement par le comité d'experts, il doit rentrer en vigueur. Sauf que ça, même ça, ils ne le respectent pas. Le MEDEF et la CFDT au niveau confédéral nous ont dit, contrairement à ce qui est marqué dans la loi en séance le 30 mai, non, mais votre comité d'experts, qui a servi à empêcher que l'UNEDIC ne garde les infos, ne nous torpille tout ce qu'elle a pu torpiller dans notre accord, l'UNEDIC tout seul, le comité d'experts, c'est juste pour vous aider dans votre négociation de secteur, après c'est fini. Alors que là, au moins, dans la loi, il est marqué qu'une fois que le comité d'experts a donné son avis, c'est cet accord qui est transposé dans la convention du régime général. Et donc, bien évidemment, ils mettent toute une série d'embûches. La lettre paritaire dont j'ai parlé, avec un désengage article par article en faisant du juridisme sur chacun des articles, c'est évidemment un tissu de conneries. Ils sont capables de dire, par exemple, que les choses qui existent déjà ne sont pas légales, des choses qu'ils ont eux-mêmes signées, même si ça a été parfois sous la pression, comme le fait que les congés maternité comptent pour l'ouverture de droits, ce qui avait été retiré de la convention en 2003 et regagné, c'est à peu près la seule chose qu'on avait regagné en 2004, réintégré dans la convention d'assurance chômage. Donc même ça, ce truc-là, c'est dans leur texte, c'est illégal. C'est illégal, mais ça existe déjà, et c'est eux qui l'ont signé, et personne n'y a jamais trouvé à redire, mais c'est pas grave, c'est quand même illégal. Ils ont fait feu de tout bois, parce que ce sont des mauvais perdants dans cette affaire. Donc, première étape, le 28 avril, effectivement, on a tâché de l'expliquer le plus possible, mais il y a eu une démobilisation qui était attendue, et heureusement, on a refait parler de nous, grâce à notamment un certain nombre d'actions. D'abord aux AG, la colline, le théâtre de la ville et différentes mobilisations qui ont été très fortes. Et puis par ailleurs, des actions comme celle au MEDEF, qui est effectivement le théâtre de l'Odéon, merci Michel, mais le MEDEF, puisque c'était très récent, et donc qui ont permis de reparler de ça. Le théâtre de l'Odéon, c'était avant la signature de l'accord. Mais après, la deuxième étape, il faut reparler de ça. Et donc, il faut redire autour de nous que les choses ne sont pas terminées, que tous les dossiers sont liés entre loi travail, assurance chômage, article 11A, et qu'on a besoin de mobilisation pour imposer une autre forme. Et parce que cet accord du 28 avril, nous allons parvenir à le faire mettre, j'en suis persuadé, à le faire rentrer en vigueur au 1er juillet, mais nous le ferons rentrer en vigueur, pas parce que certains sont gentils avec nous, mais parce qu'on leur a imposé, parce qu'on leur a réussi à faire un mouvement unitaire notamment depuis 2014, qui a réussi à faire en sorte que nos propositions ont été celles qui ont été négociées et ce seront celles qui seront en vigueur à partir du mois de juillet.
On prend une autre question ou un autre tour de parole.
C'était pour redire du coup un autre rendez-vous possible pour demain. Hein. C'est pas du tout pour jouer la désunion, mais c'est que y a différents endroits dans la manif et entre autres aussi le cortège de tête. Et du coup, c'est pour répéter le rendez-vous qui a été dit tout à l'heure à midi au ciné l'Escurial. Voilà où il y a un pré-rendez-vous pour discuter un petit peu avec les gens qui seront là. Et en fait, c'est je parle un peu simplement, mais des bouts de postiers, de cheminots. Il y a l'Interpro de Saint-Denis. Il y a la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Les comités d'action qui se réunissent ici à la Bourse du Travail, des gens de Nuit Debout, éducateurs debout. Et depuis des semaines, en fait, ces gens-là essayent un peu de se coordonner. Et ça a donné des choses plutôt bien. Entre autres, il y a deux semaines où il n'y avait plus de date. Il n'y avait pas de date. Et on s'est coordonnés ensemble pour faire que la manif des cheminots devienne la manif contre la loi travail pour tout le monde. Et le matin, il y a eu des blocages de dépôts RATP qui ont été co-organisés. Enfin voilà, c'est des vraies choses. Et qui font aussi que dans la lutte, on se rencontre. Et qu'on connaît aussi la réalité de l'autre. Et là, j'insiste juste sur cette chose où c'est important parce que, là, il y a la lutte contre la loi travail, il y a l'accord sur les 8 et 10, là, où il faut enfoncer le clou, il faut gagner. Mais, par exemple, moi, je suis au régime général et je sais très bien ce qui va m'attendre là dans les mois à venir et que ça. À voir, on verra le 16, mais très certainement que les négociations concernant le régime général vont être prorogées, on appelle ça comme ça, maintenues en état, quoi. Je sais pas comment c'est quoi le terme.
Maintenant, c'est une prorogation, mais vas-y, terminé.
Et donc, du coup, ce qui attend et ce qui a été fait, par exemple, en 2014, on l'a bien vu, les intermittents qui, après ça, je le dis, c'est peut-être une analyse personnelle, mais sont un peu les seuls chômeurs, en fait, à se mobiliser. Pour des raisons après qu'on pourrait analyser ou quoi. Mais que là, ça fait des années, en fait, que c'est les seuls chômeurs qui se mobilisent quand il y a des négociations d'assurance chômage. Et que là, comme pour la loi travail aussi, par ailleurs, on va dire ceux qui connaissent déjà la loi travail ou les plus précaires, c'est eux aussi qui ont le plus de mal à se mobiliser. Là, pour les histoires sur le régime général, c'est vraiment, ça va être l'horreur. Et sauf qu'à ce moment-là, peut-être il y aura plus que le régime général, après avoir comment la configuration va se faire, il faudra encore lutter sur les 8 et 10, mais que tous ces liens, ils sont hyper importants à faire maintenant et pour que perdure la lutte par rapport à la loi travail et dans les prochains mois, que ces liens concrets dans différents secteurs s'activent, puissent s'activer aussi à ce moment-là. Et donc, je répète, le rendez-vous, c'est à midi au cinéma L'Escurial et la boulevard Port-Royal. Et l'idée, c'est d'aller... Donc, il y a des étudiants aussi. Enfin, voilà. Et c'est d'être dans le cortège de tête, d'être un bout de l'hétérogénéité du cortège de tête.
Directement avec un autre rendez-vous qui est un rendez-vous action qui sera mercredi, donc après-demain, à 13h, métro Saint-Lazare, à la sortie Cour de Rome, au niveau de l'énorme bulle, là, en espèce de plexiglas. Voilà, donc il y aura probablement d'autres rendez-vous, peut-être en fin de semaine, peut-être la semaine suivante, mais tenez-vous prêts et motivés.
Et on rappelle qu'il y a de toute façon un autre rendez-vous, probablement avec un départ en action au MEDEF, jeudi, à 13h, c'est ça ?
Rassemblement au MEDEF.
Rassemblement au MEDEF.
C'est tout à fait officiel à 14h.
Alors à 14h, voilà, jeudi à 14h, devant le MEDEF.
Mais si on annonce qu'on va rentrer dans le MEDEF, ça va être un petit peu difficile. Vendredi, ça m'étonnerait. Mais bon, Il y en a qui sont très forts.
Oui, donc je soutiens absolument la proposition d'Elisa, là, le cinéma L'Escurial. Le cinéma L'Escurial, donc, nous soutenons cette convergence des luttes à nouveau. Je rappelle qu'il y a une action qui est prévue de bonne heure avec les postiers. Moi, je ne pourrais pas y aller. C'est toujours gênant d'appeler à une action à laquelle on ne pourra pas y aller parce qu'il y a d'autres choses à faire. Peut-être pas à cette heure-là, mais un peu plus tard. Mais à 4h30, il y a un rendez-vous, il faut aller voir Xavier. D'accord ? À 4h30, ceux qui ont le courage. Cela dit, sachons que la lutte va être longue. On n'aura pas gagné vendredi parce qu'ils auront trouvé un petit accord sur l'article 2. D'accord ? Il faut penser que la lutte va être longue et nous nous battons contre la loi El Khomri et son monde. C'est une chose. Deuxièmement, son monde entier de réaction sociale, de répression sociale. Et je voulais dire aussi que, oui, il s'est passé des choses aujourd'hui. Ce matin, il y a eu une petite action devant la CFDT. Une action devant la CFDT qui a été une moquerie de la CFDT. Regardez sur Infolutte, vous verrez ce qui s'est passé. Et il y a aussi aujourd'hui Valls qui était à Caen, qui a été pourchassé par les manifestants à Caen. Donc ça n'arrête pas et ça n'arrêtera pas. Donc d'autre part, oui, à propos des gens du métier. Oui, le meeting et où est la gauche, qui a été encore nouveau, pas celui de Paris, un autre. Un nouveau en province qui vient d'être annulé, à Poitiers. Donc voilà, c'est incessant, il faut que voilà qu'on garde le courage ensemble, que ça ne va pas s'arrêter. Et pour parler de la bourgeoisie du métier, n'oublions jamais ce que j'appelle la bourgeoisie du métier, c'est-à-dire les gens qui ont des conditions d'existence un peu particulières, qui sont directeurs de centres dramatiques nationaux, etc., etc. Des gens très bien, c'est des grands talents. Ces gens-là, il faut quand même qu'on arrête de se dire qu'ils font partie de notre famille. Il faut quand même que nous n'oublions pas qu'il y existe des rapports de classe, y compris dans notre profession. Cela n'empêche pas, bien sûr, qu'on aura peut-être besoin d'eux pour quelques comités de soutien. Donc on ne va pas leur cracher dessus complètement. On va dire qu'ils sont très importants, qu'ils peuvent être utiles à certains moments. Mais il ne faut pas compter sur eux pour être avec nous dans la rue. Certainement pas. Voilà.
Alors, je te donne la parole maintenant, si tu veux la prendre.
Regardez, franchement, ici, moi, j'en connais beaucoup des techos de théâtre. J'en vois pas un. Bastille, ils sont où ? Châtelet, ils sont où ? Chaillot ? Tabassi, ben voilà, une exception. Mais je suis désolé, il y en a très très peu. En 2003, il y en avait plein. Il y en avait plein en 2003 dans la rue, dans les AG. Maintenant, il n'y a plus personne. Les gens qui sont ici, moi franchement, je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais il y a très peu de techos du spectacle vivant. Je suis désolé. Il n'y a pas de machiniste, il n'y a pas d'électro. Il y en a très peu. Non, mais voilà, c'est tout.
C'est à chaque AG.
Qu'est-ce que
c'est
tu
à chaque
peux
AG, il y a
alors, la question
des musiciens
par
qui
des
disent il n'y a pas de musiciens et puis les techniciens qui disent bon voilà dans chacune des professions on n'est pas assez nombreux mais il faut aller sur place.
La question par rapport à des constats comme ça, c'est de proposer des actions. Je trouve que ça c'est important parce que les constats de démobilisation on peut les faire, on peut en dresser la liste. Aujourd'hui ça sert un peu à rien dans une AG d'action et de mobilisation de faire le constat des démobilisations. Voilà.
Bonjour. Non, mais là-dessus, enfin, moi, je pense que c'est un peu, c'est un vrai débat de fond. Après, je pense que balancer une intervention comme ça, c'est, je sais pas trop à qui ça s'adresse et ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que il y a quand même des assemblées générales ou des actions. On était quand même assez nombreux où il y avait des gens un peu de différentes professions. Alors après, moi, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est que la difficulté cette année qu'on a, c'est qu'on a du mal à se mobiliser de manière assez massive au niveau des intermittents de façon assez nette. Après, il y aurait plein de raisons et des tas de discussions à avoir sur ça. Moi, j'ai l'impression que un truc que je ressens plus personnellement et aussi auprès de mes collègues ou de mes amis, etc., qui bossent dans ce secteur-là, qui sont intermittents, c'est que la précarité, elle est de plus en plus importante et c'est hyper difficile hein, de réussir à... Enfin, il y a une pression, en tout cas, qui est hyper importante sur les salaires, l'emploi, la difficulté d'avoir ses heures, etc. En ce moment, il y a des gens qui, depuis des années, et surtout au niveau des techniciens, arrivaient à faire leurs heures assez facilement et qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal, c'est une réalité. Alors j'en parle même pas au niveau des artistes, hein. Voilà, moi je travaille dans le théâtre, donc je m'avance pas sur le terrain de l'audiovisuel, mais ça a été évoqué plusieurs fois dans plein d'assemblées générales, les difficultés qu'il y a quand on bosse sur des plateaux, etc., en termes de pression, etc. Et des fois, pour certaines personnes, faire grève, c'est aussi risquer de s'exposer à perdre des plans qui permettent de faire l'ensemble de ses heures, et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est un truc qu'il faudrait discuter peut-être plus profondément sur les méthodes de lutte, la difficulté qu'on a à mobiliser, les difficultés de mobiliser dans le secteur intermittent notamment, puisqu'on bosse tous de façon isolée, on est de plus en plus atomisés, nos contrats sont de plus en plus courts avec les employeurs avec lesquels on bosse, et du coup, bah, c'est hyper difficile de réussir à avoir, comme à la Poste ou dans d'autres entreprises, et encore à la Poste, il y aurait des choses à dire parce qu'il y a du turnover, hein, les copains, ils sont là pour l'expliquer, mais c'est de plus en plus difficile, plus t'as de précarité, plus c'est difficile de s'organiser collectivement, de se mobiliser. Après, je ne sais pas si jeter la pierre, enfin, les copains de Bastille, ils étaient là à chaque assemblée générale, il y a une manif, ils étaient quand même un petit cortège qu'ils arrivaient à faire tout seuls, qui avait grave de la gueule, donc je pense que ce n'est pas à eux qu'on doit jeter la pierre en premier. Ils ont fait 7 journées de grève avec manifestations, etc. Après, voilà, c'est une réalité, c'est que c'est un peu ce que disait Maxime, c'est qu'il y a aussi un rôle des gens peut-être plus conscients, plus mobilisés d'emblée, etc., à aller essayer de mobiliser les copains. Et c'était un peu le sens de ce que je voulais dire, c'est, voilà, moi, je pense que demain, cette journée de mobilisation et cette semaine plus largement, alors on dit ça chaque semaine, mais la réalité, c'est que bah, l'été arrive assez vite et qu'on voit que la contestation sociale, et ben, ils n'ont pas réussi à l'enterrer. Voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'en réalité, il y a des nouveaux secteurs ces dernières semaines qui sont mis en grève et des secteurs importants et ça les fait flipper. Voilà, et ils font une propagande d'enfer en ce moment pour dire le feu est éteint ici, le feu est éteint là. Mais sur le terrain, on le voit bien, c'est pas la réalité. Il y a des grèves et il y a un potentiel qui est hyper important encore aujourd'hui, même si c'est difficile, même si c'est fragile. Et du coup, la réalité, c'est que toutes nos réunions, tous les moments où on s'organise collectivement, etc., le rendez-vous de demain qui a été donné et tout ça, c'est des points d'appui. C'est des points d'appui pour s'organiser, pour tisser des liens. Les copains qui disent « moi, j'ai pas d'infos, moi, j'ai pas... Ben, » il faut venir à ces rendez-vous, il faut se mettre en contact. C'est pas toujours évident, mais c'est en participant à des actions qu'on prend le temps aussi de rencontrer des gens, de tisser des liens. Et c'était bien parce que l'AG de la dernière fois, elle a permis à des nouvelles personnes de venir à des actions parce qu'il y a eu une volonté de convaincre sur ces trucs-là et qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont mis en lien avec d'autres. Et du coup, c'est important de continuer, même si c'est hyper difficile, et de pas hésiter à aller les uns vers les autres, même à la fin de l'AG, de venir se voir, de s'échanger les numéros par binôme pour essayer de se tenir informé des trucs. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Voilà. Après, la difficulté, moi, je le dis, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas réussi cette année à faire ce qu'on appelle des comités de mobilisation, des choses qui, entre les actions, permettent de rythmer davantage les mobilisations avec des commissions qui sont plus solides, etc. Il y en a eu un peu au début, mais voilà, c'est difficile, on n'a pas souvent réussi à faire ça. Alors, au niveau de la CIP, il y a eu des interlutants qui sont sortis, là, les feuilles, mais c'est hyper dur à peu nombreux de réussir à sortir des tracts régulés, etc. Et je pense que, voilà, c'est important de tirer un peu ces bilans-là. Mais moi, je voulais juste intervenir pour terminer sur l'histoire de comment on peut faire pour continuer à mettre la pression et justement continuer à amplifier ce rapport de force et essayer de faire démentir toute cette propagande qui dit que la contestation sociale, elle s'affaiblit. À mon avis, c'est aussi, si on veut mobiliser dans notre secteur, c'est aussi faire des démonstrations. Et je pense que c'est hyper important, d'une part, qu'à la fin de cet AG ou même pendant cet AG, vous rebalanciez des textos, des mails à vos copains. On sait très bien qu'on est un secteur, pour ceux qui sont dans le spectacle et l'audiovisuel, qui fonctionne par réseau. Et du coup, il faut qu'on utilise ces réseaux-là pour la mobilisation. Donc voilà, de renvoyer des informations justement et appeler certaines personnes, les convaincre de venir à cette manif demain et aux rendez-vous qui sont donnés par la suite. Mais surtout, à mon avis, c'est réussir à convaincre que demain, il faut se mettre en grève. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on arrive à être vraiment là, au moins déjà les gens qui sont là, et qu'on arrive à convaincre qu'il faut réellement qu'on n'aille pas au boulot, qu'on réponde pas aux mails, qu'on aille en mobilisation, et que demain, ce soit une journée de grève. Alors, c'est pas évident, on l'a pas beaucoup préparé, j'ai l'impression, dans notre secteur, pour toutes les raisons qui ont été dites, mais je pense que voilà, c'est hyper important que déjà les gens qui sont là se pose cette question de la grève concrètement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Depuis le début, les seuls moments depuis cette année-là, depuis le début, les seuls moments où on a fait chier, les seuls moments où on a mis la pression, et l'accord du 28, c'est pas juste des négociations, c'est une mobilisation derrière, c'est quand on a occupé des endroits et qu'on a foutu le bordel, qu'on a empêché que les choses se passent normalement. Clairement, l'Odéon, la Comédie Française, partout en France, dans les endroits où il y a eu un rapport de force qui a permis d'avancer, c'est quand on s'est imposé, pas quand on a demandé l'autorisation, c'est quand on est arrivé qu'on a dit « Voilà, c'est le réel, c'est la mobilisation sociale qui s'invite. » Et donc, dans les jours à venir, c'est pas du tout pour faire de la démagogie, mais dans les jours à venir, il va peut-être falloir se reposer la question de quel type d'action dans notre secteur aussi on est capable de faire la démonstration de comment on arrête l'activité et qu'on pose des discussions et qu'on permet d'avancer et qu'on leur fasse peur pour les festivals. Voilà, donc il faut penser à des lieux comme ça, à des endroits comme ça, à des enjeux comme ça.
Ouais, je voulais faire une petite intervention. Moi, je participe à Agir Ensemble contre le chômage. Et comme d'autres en ont parlé, c'est pour parler de ce qui concerne le régime général. Enfin, déjà pour dire que, évidemment, les différents mouvements de chômeurs du régime général appellent au rassemblement à 14h face au MEDEF jeudi. Alors, il y a deux aspects. Hein. D'abord, le fait que côté intermittent, il y a la possibilité de gagner des droits nouveaux. C'est évidemment quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. C'est exemplaire. Heureusement que vous êtes bien organisé et que vous y arrivez. C'est exemplaire. Reste à faire le boulot sur le régime général, parce que là, on voit bien que c'est plus compliqué. Et par rapport à ça, donc, il y a cette attaque à Semaous qui a été évoquée tout à l'heure. Juste pour dire, en gros, hein, ce qu'ils veulent, c'est réduire le montant des allocations, réduire les durées d'indemnisation, augmenter le minimum pour avoir droit à l'assurance chômage, et en même temps, réduire le maximum qu'on puisse toucher. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les seniors, il y a des trucs particuliers. Il y aurait des allocations dégressives quand on serait contrôlé et considéré comme non motivé dans sa recherche d'emploi. Enfin, voilà, quoi. Donc l'attaque, elle est assez maus. Dans les choses qui nous intéressent, il y a aussi un peu comprendre comment ça va se passer pour la suite. En venant ici, moi, j'ai entendu que la réunion du MEDEF qui se tenait cet après-midi refusait l'augmentation des cotisations sociales. Donc je pense qu'on va vers une situation qui s'éclaircit un peu. On va peut-être être amené à changer d'adversaire principal. Enfin, je sais pas, il faudrait discuter de ça. Puisqu'il y avait trois hypothèses. Hein. Soit ils arrivaient à un accord qui risquait d'être assez désastreux sur le régime général. On pense que c'est important que chacun, on prévienne les gens qui peuvent être concernés de ce qui se passe. Donc ils pouvaient s'entendre, ils pouvaient proroger. Ou bien ils pouvaient passer la patate chaude au gouvernement. C'est peut-être ce qui va se passer. Et dans ce cas-là, il faudrait regarder comment s'y prendre particulièrement. En tout cas, pour parler de tout ça, et en sachant que les choses ne sont pas terminées, on appelle à jeudi soir une réunion sur la place de la République pour faire le point sur la situation et envisager les actions et la suite dans les jours à venir. À 18h, pardon. Jeudi 16, après le rassemblement et plus il y a.
D'accord. Alors,
juste pour compléter ce que disait Marc, juste sur l'heure, hein, parce que c'est une très bonne idée de se donner un point de rendez-vous. Je ne sais pas du tout à quelle heure se terminera la réunion de jeudi. Ça peut se terminer à 15h sur un constat d'échec, comme à plus soif, tard. Donc, on ne sait jamais. Et si ça dure tard, ce serait signe qu'il y ait un accord possible et autre, malgré les déclarations de Gattaz qui dit qu'il n'y aura pas d'augmentation des cotisations patronales, ce qui ferme la porte quand même à un accord même avec la CFDT. Mais donc, il faut quand même se méfier jusqu'au bout d'un engagement qui a été pris par certains, notamment un certain Michel Sapin, avait auprès de la Commission européenne en juin 2015, de dire qu'il faudrait faire 800 millions d'euros d'économies sur l'ensemble du régime d'assurance chômage. Cet engagement a été pris auprès de la Commission européenne, comme on peut le supposer, un certain nombre de réformes entre guillemets, qui est notamment la loi travail ou les lois Macron, vont dans le sens d'un certain calendrier européen. Donc ce qui fait que la proposition de se retrouver, bienvenue évidemment devant le MEDEF à 14h, on verra ce qu'on fera si on reste sur place ou si on continue, mais se retrouver éventuellement à 18h à République est une bonne idée, de façon à ce qu'on puisse rendre compte de où on en sera à ce moment-là, que ce soit pour le régime général ou pour les intermittents.
D'accord. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le collègue qui était là-bas tout à l'heure, en disant qu'on avait un peu du mal à mobiliser, qu'il fallait poser des questions, aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a, une première chose qui est intéressante de constater. Alors, n'en déplaise au collègue qui était là, moi, je suis technicien, pas dans le spectacle, mais je suis technicien quand même. Mais par contre, il y en a beaucoup d'entre vous dont le travail, c'est aussi le langage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça concerne en particulier les jeunes, il y a une vraie perte du langage de la lutte. Aujourd'hui, il n'y a plus de quartiers ouvriers en France, il y a des quartiers défavorisés. Ce n'est pas à cause du patron qui sont dans la merde dans une cité, c'est parce qu'ils n'ont pas de chance. Donc il n'y a rien à y faire, c'est la fatalité. Je ne sais pas, vous, quand vous avez été en cours de géographie, peut-être comme moi, vous aviez la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre. Maintenant, il y a le coût du travail. C'est devenu une marchandise. Je ne sais pas vous, moi, je paye une marchandise. On ne me vend pas comme ça. Donc, je pense qu'il est important de remettre déjà le langage, le langage de la lutte, de l'opposition, du rapport conflictuel. Il faut le remettre dans le débat. Et quand on s'adresse aux gens, il faut aller leur parler sur ce terrain-là. C'est-à-dire que le travail, les travailleurs, les ouvriers, les exploités... Alors certes, aujourd'hui, il y a des employés de bureau et autres qui ne sont pas vraiment des ouvriers qui tapent sur la ferraille. N'empêche qu'ils sont aussi salariés et ils se font aussi bouffer la gueule par les Bettencourt, par les Lagardère, par les Arnaud, je vous en passe, et des meilleurs. D'ailleurs, ce petit point sur le langage, ça me fait rebondir aussi sur comment mobiliser les gens. Nous, les cheminots, parce que bon, c'est encore le cheminot qui parle, on dit un truc marrant, on part en tournée. Nous, on fait des tournées sur nos chantiers pour gagner des gens à la grève, un peu comme les gens dans le spectacle font des tournées. Donc, faites-en aussi pour gagner des gens. Moi, je veux bien aller convaincre... les intermittents autour de moi, et puis même les autres autour de vous, si vous voulez, je viens vous filer un coup de main dès que j'ai le temps. Je pense qu'il y a aussi un moment où il va falloir poser un objectif un peu plus lointain que le retrait de... moi, ça pourrait être le retrait de la convention collective pourrie qu'on me propose, vous, le vote de votre accord, les autres chômeurs aussi, enfin les hospitaliers, ça pourrait être le retrait du plan Hirsch. D'autres collectifs, ça pourrait être le retrait de la loi Hervoas. Je pense qu'il va falloir à un moment poser des questions vraiment plus politiques en disant la loi El Khomri et son monde, c'est quoi? C'est le combat du grand capital. Hein. Les Challenge l'a dit l'année dernière, les 10 mecs les plus riches de France, ils ont gagné au global 70 milliards. Il n'y a jamais eu autant de dividendes qu'en 2014 et en 2015, pas de bol. En 2015, ils ont baissé et on nous pond une loi El Khomri qui va permettre de les réaugmenter tranquillement. J'ai vu un truc marrant passer aussi, je ne sais pas si vous avez vu, hein, comment ça se fait qu'on peut travailler 12 heures par jour et 60 heures par semaine s'il n'y a pas assez de boulot pour tous les chômeurs. Enfin, il y a un moment, donc il faut remettre les choses. Je pense qu'il y a un moment où, écoutez, moi, j'ai proposé à mes collègues cheminots de faire une politique de transport. Je suis sûr que si vous vous y mettez tous, là, à 200 qu'on vous êtes là, vous pourrez faire une super politique culturelle. Il y a un moment... nous, je pense qu'on ne va pas tarder à écrire à plusieurs ministres, en particulier... alors je crois que c'est Michel Sapin qui disait on comprend pas pourquoi les mecs qui bloquent Rungis ils se mobilisent, et en même temps en direct à BFM il y avait la banderole de mon syndicat avec marqué cheminots en grève contre la loi El Khomri. Donc ça veut dire qu'il sait pas lire. Macron, il est ministre des finances, il fait pas bien sa déclaration d'impôt. El Khomri, elle connaît pas le droit du travail. C'est des charlots, hein. Je veux dire, faut les virer. Donc, puisqu'on a fait ce constat là je suis sûr que nous on peut les remplacer, et ben on le fait. C'est-à-dire, je pense que ça va gagner des gens aussi. Moi, il y a plein de gens aujourd'hui. Mon chef, il est venu me voir en disant « Vous avez obtenu satisfaction. Pourquoi vous voulez encore faire grève ?» J'ai rien obtenu du tout. Voilà pourquoi je veux encore faire grève. Parce que moi, je suis parti en grève. Quand je suis parti de mon boulot, c'était pourri. Vous, intermittent, je pense que votre convention, elle n'est pas géniale. Sauf que moi, je ne suis pas parti pour essayer de revenir à mon boulot pourri. Je suis parti parce que je veux bosser 32 heures avec 25% de salaire en plus et qu'il n'y ait que des élus salariés au conseil d'administration de la SNCF. N'empêche que, voilà, pour les intermittents, c'est pareil. Le service public de la culture, je suis sûr que ça peut gagner plein de gens. Vous leur dites, nous, on veut ça. On veut tout le bras. On prendra peut-être que la main cette fois, mais on veut tout le bras. Et ça aidera à attirer les gens avec vous.
Oui. D'abord, effectivement, rappeler, comme l'a dit le camarade Dassé, qu'il y a une négociation d'assurance chômage sur le régime général qui vise à attaquer comme jamais l'activité réduite, que nous sommes une forme d'activité réduite et que nous avons un engagement qui doit être absolument fondamental pour et avec les chômeurs d'activité réduite. Je le rappelle tout le temps, nous savons intimement à quel point l'assurance chômage est indispensable et nécessaire pour nos vies. Nous ne pourrons pas continuer comme ça, à avoir deux poids deux mesures, avec un système d'intermittence du spectacle qui soit sauvé à peu près, et de l'autre côté, des gens qui soient aussi dans l'activité réduite et qui soient complètement massacrés. C'est pourquoi, camarades cheminots, nous ne nous battons pas que pour une politique culturelle digne de ce nom. Certes, c'est important, les subventions, mais nous battons surtout et aussi pour qu'il n'y ait pas de droit au travail sans droit au chômage, et que chaque chômeur soit indemnisé. C'est un grand combat, c'est un combat, mais en tout cas, c'est un combat qui est essentiel. Parce que je n'ai rien personnellement contre la réduction du temps de travail, mais même les 32 heures, et même l'interdiction des licenciements, avec ça, on crée au maximum 1 million d'emplois, il reste encore 5 millions de personnes sur le carreau. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Si on ne les amnésise pas, qu'est-ce qu'on en fait ? Bien. Donc, pour moi, la réduction du temps de travail ne peut être qu'une mesure complémentaire, mais ce n'est pas une mesure en soi. Et à mon avis, il faut arrêter de voir les choses à travers une chose qui serait l'emploi à tout prix, mais il faut absolument déconnecter l'emploi du travail et réussir à ce que tous les chômeurs soient indemnisés. Bien. Maintenant, je pense qu'il faut anticiper sur ce qui va nous arriver. Parce qu'effectivement, moi, en tout cas, je ne suis pas du tout inquiet sur la mobilisation. Absolument pas. Je sais très bien qu'il y a peu d'intermittents du spectacle qui se mobilisent sur l'assurance chômage en général et qui vont se mobiliser pour la convergence des luttes. Mais je sais très bien que si le 16, on nous annonce que ça marche pas, là, il y aura une forte mobilisation. Exactement comme quand il a suffi de lire la feuille de cadrage du MEDEF pour qu'il y ait 1200 personnes à la colline et pour qu'il y ait 32 AG partout en France. Donc, oui, c'est comme ça. Il y a tout un tas d'intermittents, les 90% des intermittents du spectacle qui ne se mobilisent que lorsqu'ils se sentent touchés. En même temps, il n'y a pas à s'excuser de se battre pour ses droits. Il y a tout un tas de cheminots, dont tes camarades avec qui j'ai parlé, qui ne se battent que pour leurs droits. Et je ne vais pas trahir un secret, les cheminots, par exemple de la CGT, ont hésité, suite à l'accord qui a été signé avec le gouvernement. Et s'ils n'ont pas repris le travail, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est pas tant à cause de la loi El Khomri, c'est parce qu'ils ont bien compris que comme c'est pas un accord de grand branche, ça créerait du dumping social entre eux, public, et le privé. Mais encore une fois, c'est aussi et particulièrement à travers l'organisation du temps de travail de les cheminots qui sont en grève, plus que pour la loi El Khomri et pour les postiers. C'est pareil, s'ils se battent, c'est pour intégrer en CDI des gens qui sont en CDD. Je ne dis pas qu'ils se battent pas aussi pour la loi El Khomri. En tout cas, c'est l'objet de leur grève. Et j'irai pas leur jeter la pierre parce qu'ils se battent pour des objets corporatistes. Donc je n'irai pas jeter la pierre aux intermittents du spectacle qui se battent uniquement pour leur truc d'intermittent. En même temps, on pourra dire que si on gagne sur ce dossier-là, ça a été rappelé, premièrement, on pourra dire que la lutte gagne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on pourra dire que cet exemple d'intermittent du spectacle et de couverture pour l'activité réduite, il faut que ce soit étendu à tout le monde. Et puis, troisièmement, on pourra effectivement citer en exemple les employeurs du secteur qui sont les premiers depuis bien longtemps à avoir travaillé sur les recettes, puisque je rappelle que le MEDEF, quand on a dit en 2014 qu'ils avaient travaillé sur leurs recettes, oui, ils ont travaillé sur les recettes des employeurs des intermittents, c'est-à-dire des employeurs qui ne les concernaient pas, eux. Mais ça fait 20 ans que le patronat n'a pas travaillé sur les recettes, et s'ils appliquaient les mêmes méthodes que les employeurs du secteur, à savoir la FESAC, il n'y aurait plus de problème de déficit de l'assurance chômage en général. S'ils augmentaient les cotisations de 1 point ou 1 point et demi, ce serait terminé. Bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire après le 16 ? Effectivement, dans le cas où les accords se passent mal, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde qui va se mobiliser. Et là, je suis absolument d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que au niveau des employeurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux bien qu'il y en ait quelques-uns à avoir signé la pétition sur Libération, mais il faut savoir que ces employeurs-là ont tous été appelés par leur syndicat d'employeurs pour leur dire « Non, ne signez pas la pétition ». Et ces employeurs-là et les autres, et je rappelle que d'ailleurs aucun des employeurs des théâtres nationaux ont signé cette pétition, et s'ils l'ont fait, c'est à titre individuel et en se faisant un peu taper sur les doigts. Mais effectivement, les employeurs ont signé cet accord. C'est aussi leur accord, les accords FESAC. Alors, moi je pense qu'après le 16, on ne pourra évidemment pas se contenter d'aller leur demander gentiment s'ils peuvent nous accueillir dans un théâtre. Il faudra leur demander, mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous arrêtez ? Est-ce que vous vous arrêtez pour faire passer l'accord ? À savoir, est-ce que, effectivement, comme disait Philippe, vous vous arrêtez, vous payez les équipes, etc., etc., mais vous vous décidez de vous arrêter ? Parce qu'on ne va pas rester tout seul, nous, dans la lutte, sans vous, puisque c'est votre accord aussi. Donc il faudra les mettre au pied du mur. Là, on a pas réussi à trouver un théâtre, faut le dire, hein, ils nous ont tous dit non. De toute façon, lundi prochain, s'ils nous disent non, on le prendra. De toute façon, non, mais on n'aura même pas le choix. Je le redis une xième fois, si là, on ne gagne pas, on est mort définitivement. C'est certain. Effectivement, pour le moment, je suis d'accord avec toi, Philippe, les employeurs du secteur se gardent bien officiellement de dire un mot. Par exemple, sur l'histoire de l'abondement de l'État des 100 millions d'euros, je ne parle pas des 12 millions d'euros qui continueraient à la caisse, mais je parle des 100 millions d'euros. Officiellement, toute la FESAC était contre. Ils sont rentrés en négociation en disant on est contre. Donc, officiellement, le syndicat du spectacle vivant, d'employeurs du spectacle vivant, ne parlons que du syndéac, officiellement est contre. Il est clair que si l'État met 100 millions d'euros, c'est une catastrophe. C'est le début de la solidarité interprofessionnelle qui se pète la gueule, c'est le début d'une caisse autonome, et dans un an, pour nous, c'est pareil, c'est mort. Mais je vois mal le syndéac faire une lettre dénonçant la chose, parce que ça mettra en péril le Festival des Villons, etc., etc. Là, il va falloir demander au syndéac, c'est quoi votre position ? La position avant, c'était non aux 100 millions d'euros, maintenant, c'est quoi votre position ? Etc., etc. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on anticipe maintenant, après le 16, comment on se mobilise maintenant, même en dehors de la grève. On sait très bien que tout le monde n'est pas en mesure de faire grève. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire grève. Donc, est-ce qu'on envisage des blocages ? Est-ce qu'on envisage des effectivement une semaine morte, totalement morte, en disant, bah voilà, si vous voulez que Aix, parce que ça commence par Aix, on l'oublie souvent, et que Avignon existe, eh ben à ce moment-là, c'est maintenant, tout de suite ou jamais. On ne va pas attendre Avignon. C'est maintenant, tout de suite ou jamais. Et puis, si ce sera jamais, bah, vous prendrez les risques que vous prendrez pour Aix et Avignon. Donc, je pense qu'il faut qu'on y pense, là, tout de suite, en cas de scénario catastrophe, après le 16. Voilà. Je ne sais pas, c'est à nous de décider, là, qu'est-ce qu'on fait après le 16. Est-ce qu'on est prêt, s'il n'y a jamais, il y a beaucoup de monde, est-ce qu'on est prêt à tous dire, bon, ben là, on s'arrête. Est-ce qu'on est prêt à tous faire passer ce message ? Là, on s'arrête. Aller voir les directeurs un par un et leur dire, maintenant, on s'arrête. Vous avez signé cet accord, maintenant, on s'arrête. C'est terminé. On ne joue plus, on s'arrête. Mais il faudra être en mesure de le faire. Si on continue à discuter et à faire des pétitions, etc., on n'y arrivera pas. La tribune dans Libé, elle a mis un coup de pression. Elle était ce qu'elle était. Moi, j'ai trouvé très bien. Enfin, je veux dire, elle était ce qu'elle était. Bon, elle a mis un coup de pression. Valls a été obligé de répondre. Valls a répondu que oui, l'accord serait maintenu au mois de juillet. Il serait mis en place au mois de juillet. Donc, il a encore une fois répondu. Donc, il est clair qu'après le 16, on pourra dire... Les employeurs, les machins, qu'est-ce que vous faites pour que Valls tienne ses promesses et pour que faire céder les confédérations, CFDT et MEDEF notamment. Voilà.
Alors, trois tours de parole pour l'instant inscrits, un quatrième peut-être. Il faut faire relativement vite dans les prochains tours de parole. Donc je vais en prendre encore deux ou trois, mais vraiment, on va essayer de faire court. Et parce qu'ensuite, il faut faire un rappel des rendez-vous, voilà. Donc j'accepte encore deux tours de parole, voilà.
Merci. Oui, je voulais parler des acquis des lieux en France qui ont été bloqués, qui ont été occupés sans être bloqués, en fait. Parce que j'ai écouté les autres... enregistrement des assemblées générales. Et personne ne parle de ce qui s'est passé en France, Montpellier, à Toulouse, à Rennes, en Gironde, à Strasbourg, etc. Et d'après leurs communiqués, ils ont fait des super communiqués qui sont hyper intéressants. Il y a plein de matières dedans. On a un super, on a beaucoup de matières documentaires. Et comment est-ce que on utilise cette matière-là pour prévoir les prochaines actions, puisque eux, ils ont rencontré les publics, ils ont créé des convergences concrètes, donc avec des assemblées générales partagées, etc. Quel quid de toute cette matière? Et une deuxième suggestion, qu'est-ce qu'on fait après le 16? Est-ce qu'on part sur du persona non grata dans les festivals, etc., et les lieux? Comment on le définit avec qui annule, comment est-ce que les assemblées générales se prononcent en fonction de, peut-être pas pour la grève, mais si telle personne vient, on fait grève, on ne joue pas.
Alors, la parole est à Demic. Tu voulais la parole?
Oui, je me demandais ce que j'allais dire, mais je vais le dire quand même. Non, c'est parce que demain soir, après la manifestation, comme on en a pu le voir depuis quelque temps, il y a ce qu'on appelle des manifs sauvages qui s'en vont. Et moi, je trouve ça pas mal. C'est un peu... Et là, peut-être, on pourrait se dire qu'à l'intérieur de la manifestation, on pourrait discuter à l'intérieur de la manifestation, entre nous, pas maintenant... De l'objectif de cette manif sauvage qu'il pourrait y avoir après cette mobilisation de demain. Ça, c'est la première chose. Hein? Pendant la manif, oui, on se parle et on se dit, voilà, qu'est-ce que ça va être comme manif sauvage, voilà. Ensuite, moi, simplement, je voulais dire à Samuel, je dis simplement que justement, ces pétitions, ces trucs-là, c'est pas toujours très constructif. Et ça a justement permis à M. Valls de faire un effet de réponse. Et peut-être c'est aussi pour ça qu'on n'est pas si nombreux ce soir. Voilà.
Alors, la parole est à Loïc. Et j'ai encore 3 tours de parole après. Et ensuite, ce serait bien que quelqu'un me rejoigne pour qu'on fasse... peut-être toi, qu'on rappelle les différents rendez-vous en fin d'AG.
Alors, oui, on a dit qu'on allait se retrouver encore pour des rendez-vous. Alors, on va tout de suite vous en donner 2, en plus de la manif de demain. J'étais pas là quand vous avez donné le lieu de rendez-vous pour la manif, mais au moins, pour mercredi 15, à 13h, on se retrouve devant la gare Saint-Lazare, cours de Rome, devant la Bulle. On a besoin de monde, hein. N'hésitez pas, ça plaira aux gens qui bossent dans le spectacle, et puis les cheminots, les postiers, les éducs, les enseignants qui veulent venir, je pense qu'ils peuvent venir aussi. Ils seront les bienvenus, et je pense que ça leur plaira aussi. 13h, comme 1h de l'après-midi, mercredi. Ensuite, comme si ça se trouve, on n'aura pas gagné mercredi soir, jeudi on recommence. Jeudi à 11h30, cours de Rome, gare Saint-Lazare, devant la Bulle. Et là, il faut être particulièrement nombreux. Donc encore plus, on fait passer le message. Nombreux, jeudi, 11h30, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Et puis il y en a qui se préparent pour la semaine prochaine, on vous tiendra au courant. En tout cas, déjà pour cette semaine, on espère qu'on sera nombreux et qu'on y va avec la pêche. Il y a de quoi se faire entendre. Merci.
La parole est à Maxime.
Moi, je fais très très court, c'est juste qu'en début, enfin en début d'AG, j'ai essayé de lancer quelque chose sur des choses concrètes aussi, à essayer de se positionner. Tu veux tout de suite dire quelque chose? Oui, c'est important. Non, mais jeudi, il faut être là, hein. Et mercredi aussi.
Oui, j'ai oublié de dire que mercredi, donc il fallait venir avec des baskets. Et que jeudi, vous pouvez venir avec des baskets plus un pyjama. Voilà. Un bon sandwich, tout ça, voilà. Basket plus pyjama jeudi, d'accord? Répercutez-le tel quel. Merci.
Pourquoi?
Ils t'ont filé quoi en garde à vue? T'es shooté?
Donc sur des choses un peu concrètes, par exemple, moi je pense que si on essaye de se dire pourquoi il y a moins de monde aussi aujourd'hui, c'est pour une raison bête, c'est qu'on l'a annoncé aussi plus tardivement que c'était ici. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à aller dans les théâtres. Il y a eu un symbole qui a été en place en 2003, en 2014. C'était le péristyle de la Villette. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que c'est compliqué, effectivement. Mais de donner dès maintenant rendez-vous à une AG, par exemple, dire que tous les lundis, c'est à cet endroit-là, c'est un lieu qui est ouvert, qui permet... On n'a pas la question de la jauge à se poser. C'est-à-dire qu'on sait que ces endroits-là, ce sont des AG de lutte, qu'il y a du monde qui vient. Et qui permettrait aussi de rattacher la loi travail et de montrer qu'on est dans une vraie solidarité interprofessionnelle et que ça concerne tout le monde. C'était l'idée de dire que les ministres de la culture, les ministres tout court, sont persona non grata à nos spectacles. Ça engage à pas grand-chose, mais de aujourd'hui dire ça, dire qu'on ne jouera pas tant qu'il y aura les gens de la loi El Khomri et de leur monde qui seront dans nos salles, nous ne jouerons pas. Ça, c'est un truc tout simple.
Alors, ce n'est pas un coup de bluff, je te donne la parole. C'est simplement pour rappeler que la grève a été votée demain pour le montage au Festival d'Avignon, que les personnels du Théâtre de la Colline seront en grève demain, ainsi qu'une bonne partie des personnels de Chaillot. Voilà. Donc il y a des grèves à Paris aussi, demain, dans les théâtres.
Et moi, je vais aller un peu plus loin dans les perspectives. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on court deux chevaux en même temps. Bon, il y a la loi travail et puis il y a l'assurance chômage qui sont trois, la troisième étant...
C'est le contrat de la loi création. Le travail gratuit.
Voilà, le travail gratuit. Donc trois. Celui-là, il est encore moins visible. Hein. Il concerne encore moins de, quoi, autant de gens, mais on en parle beaucoup moins encore. Mais donc sur les deux premiers, il y en a un dont on parle beaucoup, c'est celui qui est passé à coup de tonfa. De 49.3, pardon, la loi travail. Le deuxième, c'est l'assurance chômage. On en parle un peu parce qu'il y a quelques intermittents qui sont là. Heureusement qu'il y a la loi travail parce que s'il devait y avoir qu'une mobilisation intermittente, peut-être qu'on serait comme ce soir et pas plus nombreux. Alors, je me dis qu'il y a une chance énorme. C'est que nous, notre travail, quoi, pour ceux qui font du spectacle, c'est le soir. Et qu'on pourrait inviter tous les gens des autres secteurs. Par exemple, en 2014, il y avait les dockers à Marseille qui étaient en grève. Et en même temps, il y avait des grèves dans le secteur culturel, mais ça n'a pas jonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est bien ce mot-là. Mais en tout cas, le travail des salariés du spectacle, là, c'est le soir, souvent. Et les gens, ils ont fini leur journée le soir. Les gens dans les autres secteurs qui sont syndiqués, parce que les intermittents du spectacle, il y en a un peu qui sont à la CGT Spectacle, il n'y en a pas beaucoup quand même, il y en a un petit peu aussi à la CFDT Spectacle, peu importe les nombres, c'est pas vers ça que je voulais aller, mais c'est juste qu'on fasse ce boulot de convergence des luttes aussi pendant les festivals, à inviter les cheminots, les postiers, les dockers, les gens qui bossent encore à cette époque-là, à venir le soir perturber les spectacles. Et c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes, il me semble, et qu'on ne reste pas entre nous à se dire « Ah merde, on va aller bloquer le spectacle des copains, mais ils vont faire la gueule et tout. » Bloquons tout, quoi. Voilà, il y a une vraie invitation à faire aux autres secteurs, à venir le soir... avoir des assemblées générales dans les théâtres, les festivals. Il y a Montpellier qui démarre très bientôt avant Avignon et Aix. Donc c'est dans 10 jours. Quoi. Ils sont déjà en montage aussi. Il y a pas mal de choses qui sont en montage. Dans les choses concrètes, c'est d'appeler les équipes techniques sur place. Parmi les gens ici, il y a pas mal de gens qui ont des contacts. Donc il n'y a pas d'artistes encore. C'est souvent le problème parce que de mettre les gens face à cette situation-là, c'est que ceux qui débutent le montage des festivals, c'est des machinots qui sont à 11,80 € brut de l'heure à Avignon, qui travaillent 60 heures par semaine, puisqu'ils sont dans le cadre d'un festival, et qui sont déjà bien au-delà de la loi travail, et sont contents de travailler 60 heures par semaine, parce que ça permet de faire des heures qui correspondent au carnet de commandes, comme la Twingo, il faudra la faire au mois de février, il y aura des intérimaires qui bosseront au mois de février, puis on les lourdera, une fois que la carnet de commandes du spectacle de la Twingo sera terminée. Bon, je m'étale. Donc, n'oublions pas, pendant les périodes de festival, que les orgas syndicales, les copains qui ont appelé les autres secteurs à venir voir des assemblées générales, des spectacles le soir, c'est gratuit, et faisons ce boulot-là. Ne laissons pas les dockers d'un côté faire, parce qu'on peut y aller en journée, faire leur grève, et puis que les CGT du spectacle font leur grève, et puis qu'ils sont tous les deux en grève dans la même ville, et il n'y a aucun contact qui se prend. Voilà.
Non, je vais intervenir sur par rapport aux interventions qui ont lieu par rapport à nos employeurs. Alors, je suis à peu près convaincu qu'ils ont signé l'accord et ils n'iront pas plus loin à se mobiliser et se bouger d'une quelconque façon par rapport à cet accord. Alors là, dans toutes les négociations qu'on a en ce moment, les relations qu'on a avec nos employeurs, qu'ils soient du secteur subventionné ou du secteur privé, c'est qu'on assiste à une médéfisation à grande vitesse. C'est-à-dire toutes les idées du patronat qu'on retrouve dans la loi travail, aujourd'hui, sont portées collectivement par les employeurs du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Il faut le savoir. Si on gagne, si on a gagné cet accord, c'est par nos mobilisations et les luttes qu'on a faites depuis 2003 et même avant, et 2014. Les points qu'on a marqués contre l'accord de 2014, les grèves qui ont eu lieu, les mobilisations et les manifestations qu'on a faites en 2014, où on a arraché cette concertation nationale, et on l'a arraché aussi à nos employeurs. Alors nos employeurs étaient ravis de cette négociation spécifique, parce que c'est la première fois qu'ils existent dans une négociation assurance chômage. Donc ils roulent des mécaniques, mais ça ne va pas plus loin. Alors il y a un rapport de force. Le rapport de force, c'est nos assemblées générales. La CGT Spectacle, on la porte dans la négociation et on le rappelle sans arrêt que si on est là, c'est grâce aux mobilisations et aux rapports de force qu'on a fait. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un accord qui va de l'avant, qui est une période historique et il faut continuer. Mais nos employeurs, ils n'iront pas plus loin et il faudra sûrement se retourner contre eux, aller leur rendre visible dans leurs locaux aussi, pour leur dire on n'est pas d'accord sur ce que vous faites, sur de plus en plus de contrats, de plus en plus précaires, de plus en plus courts, la baisse des rémunérations, sur tout ce qu'ils amènent aujourd'hui, inspiré de la loi travail. Nous, dans les négociations, je vais prendre un exemple que vous allez tous comprendre. Il y a un certain nombre de contributions sociales dans nos conventions collectives qui sont sur la formation professionnelle, la médecine du travail, les mutuelles, la prévoyance, les aides au paritarisme, etc. On a une position dans ces accords où on a des forfaits. Ça veut dire que dans le spectacle vivant, par exemple, pour une petite compagnie, une petite structure qui emploie quelques salariés, dès le premier contrat, quelle que soit la nature de la rémunération, il faut payer 250 euros de forfait. Nous avons remis ça en cause. Nous demandons à ouvrir les négociations pour que ça soit un pourcentage du salaire brut et pour qu'on arrête avec ces forfaits qui tuent le travail et qui tuent l'activité. Eh bien, pas une organisation d'employeurs n'est d'accord aujourd'hui pour remplacer le forfait. Pour quelle raison? C'est que les organisations qu'on a en face de nous, en général, c'est les grosses structures. Et qui nous disent, mais il y a beaucoup trop de petites structures. Ils dénoncent la diversité des modèles de création dans notre pays. Ils veulent tout concentrer, tout ramener dans le marché. Et on est en lutte féroce contre eux. Alors, on n'aura pas leur soutien pour aller plus loin. C'est que nous qui pouvons faire avancer en multipliant les actions, en étant déterminés et, s'il le faut, en appelant à la grève.
Pour demain et les jours suivants.
Nous avons un dernier tour de parole.
Bon. Moi, je voulais faire une petite annonce culturelle, parce que vendredi, il y a une projection de Merci Patron au cinéma L'Étoile à La Courneuve, et ça a été beaucoup dit là pendant l'Assemblée Générale, mais ça a été aussi dit pendant le rassemblement devant la préfecture, par exemple, etc. C'est que il y a un problème de médiatisation. Donc la projection sera suivie par un débat sur les médias qu'il faut pour faire avancer les luttes, mais aussi sur les luttes qu'il faut pour conserver les médias qui eux aussi sont victimes de concentration et qui disparaissent, qui sont étranglés financièrement. Donc c'est le cinéma L'Étoile à La Courneuve, c'est juste à côté de l'hôtel de ville et c'est à 20h.
Et la deuxième chose...
Métro.
En fait, c'est pas très loin du RER B, la Courneuve-Aubervilliers, 5 minutes à pied. Et sinon, c'est le tram qui va de Bobigny à Saint-Denis. Le arrêt Hôtel de Ville de la Courneuve. Et l'autre chose que je voudrais dire par rapport à ce qu'il y a moyen de faire assez facilement pour la convergence des luttes pendant les festivals, c'est qu'il y a les agents de sécurité, il y a les personnes qui nettoient, il y a les gens qui font à manger, etc., qui sont des précaires de chez précaires et avec lesquels, quand on commence à discuter, qui sont en général intéressés par ce qu'on leur raconte sur que ce soit le régime général, la précarité en général, ils connaissent parfaitement. Voilà.
On termine par les rappels des différents rendez-vous.
Ouais.
Non, histoire de sortir avec quelque chose quand même, qu'on ne soit pas que de la branlette de parole, pardon. Oui, mais on peut aussi faire des choses dès aujourd'hui. La première, c'est dès maintenant annoncer une AG à la Villette. Après, soit c'est oui, non, c'est compliqué ou pas, mais ça se discute. Et c'est de persona non grata, les ministres et leur monde à tous nos spectacles. S'ils sont présents dans nos salles ou dans nos rues, on ne joue pas.
Mais sur la première, juste sur répondre sur la Villette, les copains de la Villette nous ont prévenu que c'était un peu plus compliqué qu'en 2014 parce que le parvis était occupé, mais il faut qu'on aille vérifier. Donc on va voir. Bon. Voilà, donc faut aller regarder, faut qu'on aille voir. Bon. On va vérifier avant de voir ce qui est possible, avant de donner des rendez-vous qui ne sont pas possibles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur le principe d'avoir des AG pour continuer en fonction de ce qui se passe le 16, de toute façon, il faudra continuer à lutter. D'abord, il y a la loi travail. Deuxièmement, il va falloir, tant que cet accord n'est pas mis en œuvre, on a toutes les raisons de se battre. Et puis, il y a toute l'histoire des 80 millions d'euros. Donc, de toute manière, les AG continuent. Donc, on va tâcher de donner des rendez-vous la semaine prochaine. On va voir.
Enfin, sans rien dire de plus, le 16, ce qu'on veut faire, c'est aussi d'avoir un endroit pour faire des assemblées générales.
A priori, le pyjama pour le 16, c'est pas forcément donc, pour faire la sieste. Voilà.
On attend le 16 déjà. On va attendre de voir où on est le 16. C'est ça qu'on dit. Et puis, de toute façon, sur le principe, on aura des rendez-vous la semaine prochaine. Oui, on appelle à une AG, mais on ne peut pas dire le lieu. Voilà, c'est ça, c'est clair maintenant, c'est bien. Bon, donc, on verra bien, ça pourrait être le déron. Sur les personas non grata, évidemment, oui, les ministres et un certain nombre de personnes dont on fera la liste ne seront pas bienvenus tant que la loi travail n'aura pas été retirée et que, par ailleurs, on n'a pas fait en sorte que les accords assurance chômage soient à la hauteur de nos demandes à nous et pas de celles du MEDEF. Bon, ça, c'est pas difficile à lancer pour le faire circuler. Alors, persona non grata, est-ce que quelqu'un s'oppose ou est-ce que tout le monde... qui est pour ? Persona non grata ? Ah, c'est... Fastoche. Agir la semaine prochaine dans un lieu qui restera à terminer. Ça peut être Odéon, ça peut être aussi en fonction de l'action de la semaine prochaine. On verra en fonction...
Non.
En fonction de l'action jeudi.
En fonction
jeudi.
D'où on sera aussi.
La Villette, on doit vérifier, ça a été dit par certains camarades, c'est occupé par le foot et autres, c'est pas simple. Donc il y a une action jeudi dans un lieu qui peut durer, ça peut être le lieu des AG. Donc le principe, la seule chose qu'on peut décider maintenant, c'est le principe d'AG la semaine prochaine, mais le lieu, on va devoir encore faire tourner. Voilà. On va devoir attendre de nos propres décisions la fin de semaine. Oui, bien sûr, mais il y aura des AG jeudi soir. Ça a été dit, c'est soit Place de la République, soit l'endroit qui est visé par un plan basket pyjama. D'accord. Oh. Vas-y vite, parce qu'on va laisser finir aussi nos camarades qui travaillent ici. C'est convenu avec eux que normalement on termine à 9h30.
Voilà, donc il est 35. Donc,
Alors, vas-y, Dominique.
Ah. Bon, bah alors...
Ok, alors, excusez-moi, mais rappel des rendez-vous. Rappel des rendez-vous.
Alors, rappel des rendez-vous, on va le faire en binôme, en trinôme avec Alix. Voilà.
Donne-lui le micro. Donne-lui le micro.
Est-ce que vous pouvez juste rester 2 minutes pour le rappel des rendez-vous ? On commence par le rendez-vous...
4h30 demain matin. Il fallait aller voir Xavier. Voilà. Mais ceux qui l'ont vu se connaissent le rendez-vous de 4h30 demain matin. D'accord. Alors, ceux qui n'ont pas pu voir Xavier vont voir Michel.
Ensuite, les rendez-vous pour la manif. Donc, il y a un rendez-vous à midi devant le cinéma L'Escurial... 11 boulevard Port-Royal.
Il y a le rendez-vous fédéral qui est à 13h, boulevard Vincent-Auriol, au niveau du camion plateforme son qui sera côté place des Alpes. Voilà, demain à 13h.
Donc le rendez-vous devant le cinéma L'Escurial, c'est pour participer au cortège de tête. Donc ensuite, on a rendez-vous mercredi 15 à 13h à Saint-Lazare, sortie cour de Rome devant la Grosse Boule, ainsi que jeudi, même rendez-vous, mais à 11h30, avec ses pyjamas et tout ce qu'on veut pour faire une super soirée pyjama tous ensemble.
À 11h, et éventuellement aussi une brosse à dents, on peut le dire comme ça, Loïc ? Pyjama, brosse à dents, voilà. À 11h... À 11h30 À 11h30, jeudi, cour de Rome. Il y a un appel à rassemblement jeudi à 14h devant le MEDEF. Voilà. Et évidemment, il est possible qu'on rejoigne celles et ceux qui se sont donné rendez-vous à 11h30. Voilà. Voilà pour les premiers rendez-vous. Ce sont des rendez-vous d'action. Et ce sont des rendez-vous de mobilisation. Et c'est très important. Je voulais juste dire un truc. C'est un truc qui a été partagé. Effectivement, la mobilisation, elle doit partir de nous. On ne doit pas attendre que les choses viennent de nos éventuels patrons. On n'a pas à leur demander de se mobiliser à notre place. Nous sommes ici, nous sommes dans la lutte. Certains depuis 2003, certains depuis 2014, certains nous rejoignent maintenant. C'est avec ceux qui viennent que la lutte se construit. Et qu'elle se construira, nous vous appelons demain, après-demain et jeudi à venir le plus nombreux possible à tous ces rendez-vous.
Pour être informé de ces rendez-vous, vous pouvez venir me voir pour me donner vos coordonnées.